Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up et qui enregistre bien trop tôt le matin pour que j'ai une voix claire. Je m'appelle Briac, je suis accompagné comme toujours de Scott Fins.
Hello darlings, hello, hello. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Vas-y, présente-nous, il est merveilleux.
Et il nous vient d'Antony, dans la région parisienne. Il a conquis tous les plateaux et en particulier le Café Oscar. C'est Maoulé, salut Maoulé.
Salut Briac, salut Scott Fins, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Aujourd'hui, on est trois pour parler d'un truc en particulier qu'on a vu la semaine dernière. C'est Dave Chappelle à Paris qui est venu exceptionnellement pour la cinquième année de suite faire un show. Et on y a assisté avec Maoulé, mais on a assisté à des horaires différents. Donc on va essayer de vous résumer un peu l'expérience et surtout à Scott qui n'était pas là.
Oui, je suis là en présentiel à voir vos ressentis. Donc il y en a un qui a vu la boom de 15h et l'autre l'a vu le soir, c'est ça?
Exactement.
Merveilleux.
On va te raconter déjà comment on a accès au ticket parce que c'est intéressant de voir tout le parcours que tu fais pour voir Dave Chappelle.
Ah ouais.
Donc, c'est déjà pas un snack. Déjà, le premier truc, c'est qu'il faut que l'information que Dave Chappelle soit là, elle arrive à toi.
Ah oui, moi j'ai entendu parler quand tu m'as dit, tiens, mardi je vais voir Dave Chappelle. Je dis, ah ouais, mais Dave, il m'a rien dit. Pourtant, c'est pas faute de pouvoir me trouver sur les réseaux. Pourquoi il m'a rien dit qu'il venait? Je pouvais pas venir, mais c'est pas grave.
Mais Scott, c'est pire. C'est-à-dire toi, il te l'a dit mardi, j'y vais, je sais pas quel jour il te l'a dit. Moi, je sortais du boulot, il était 18h, j'allais faire un plateau à 19h. Briac m'écrit, hey, ça, tu savais que Dave est là? Dave a un spectacle, il a un spectacle, Dave, c'est cool. Ça ouvre à tout à l'heure, là. Ça ouvre. Tu as l'ouverture des billets. Je vais pas acheter des billets tout à l'heure. Non, il est là tout à l'heure. Mais ça n'a pas de sens. Il s'est prévu pour quand? Ça n'a pas de sens. Il est là ce soir. Oui, il est là ce soir. Les places, il n'y a plus de place. Non, il y a encore des places. Je dis, quoi, il y a encore des places? Ok, j'y vais. Donc, en fait, vraiment, parce que Briac m'a informé que Dave était là, que j'ai eu l'info. Et littéralement, j'ai pris le billet là, quoi. Pour voir un mec tout à l'heure. C'est n'importe quoi. C'est genre, on ouvre les billets à midi et tu le vois à 13h. C'est un peu ça l'idée, quoi. Je l'ai vécu comme ça.
Il galère à remplir. Je suis sûr qu'il a mis une petite publié sur Insta. Dernière place disponible.
tu crois pas si bien dire. Déjà, ils font.
De fou, quoi.
Ils sont confrontés au même problème que nous. C'est-à-dire qu'à un moment, même si le show peut attirer du monde, l'information qu'il est là, c'est dur à faire circuler. Donc, ouais. Ça a circulé via le compte de Live Nation, qui est donc l'organisateur. C'est ceux qui font venir pas mal de.
D'Américains.
De comédiens, ouais. Pas mal d'Américains, pas mal de comédiens d'anglais. Ils organisent beaucoup de choses comme ça internationales. Donc, c'est eux qui ont pris la gestion de ces dates-là. Et c'est eux qui gèrent ça depuis quelques années à chaque fois que Dave vient.
Live Nation, je vais les contacter.
Ah, Live Nation, tu peux y aller, c'est solide. Ça sera parfait pour toi, tu es dans l'ADN.
Oui, c'est bien. Mais en vrai, des fois, j'ai vu Eddie Izzard à Toulouse, j'étais là, comment? Il y avait Yacine Bellouz qui faisait sa première partie, genre, comment ça s'est fait? Qui a dit quoi à qui? Je veux, je sais pas. Voilà, donc c'est cool, Live Nation, ok, je note, c'est bien.
Mais Briac, comment t'as eu l'info, toi, à la base? En fait, comment t'as su? Parce que moi, j'ai eu l'appris le jour même, mais en vrai, est-ce que la promo a commencé en amont? C'est quoi le délire?
Alors là, la promo, elle a... C'est via Live Nation, en fait, ça a pop sur mon Instagram, donc c'était un contenu sponsorisé, parce que moi, je suis pas abonné à Live Nation. Je vois Dave Chappelle, je dois le voir le... Ça doit être le samedi, j'ai dû le voir samedi, et quand je regarde, je me dis, bah, c'est mort, ils ont dû prolonger la promo, mais il doit pas y avoir de billets. Et quand je regarde, il y a plein de billets. Donc le samedi pour le mardi. Et c'est bizarre, il y a beaucoup de billets. Et j'en parle à mon pote Paco, qui est déjà venu sur le podcast, et je lui dis, ça te dit, moi je suis censé être à Paris mercredi, je suis prêt à avancer mon billet d'un jour, comme ça on voit Dave Chappelle. Et avec lui, je suis pour 100% de refus en général sur tout ce qui est projet comme ça.
Ouais.
Et là, je ne sais pas pourquoi. Il a dit, ok, j'en parle à ma femme, et boum, 5 minutes après, c'était au code, avec les billets.
C'est cool, okay. Ça. Limite, aller écrire à Live Nation pour dire qu'ils avaient oublié d'éteindre la pub. Ils sont en train de gâcher de l'argent, les gars. Éteignez.
Mais il restait encore des places. Nous, on prend nos places. J'ai pu recommander après. Il restait encore pas mal de places et plutôt bien placées. Là, l'endroit, c'est pas une grosse loge. Et donc, c'était étonnant. Je me suis dit, c'est bizarre. Les premières fois qu'il y a eu des chapelles, ça ne se passait pas comme ça. C'était galère à avoir, galère. À... Là, facile à avoir. Et en fait, j'ai l'info par la suite qu'il galère à remplir.
Ah ouais,
Qui...
bah, en tout cas, quand tu m'as balancé l'info, moi, donc on était le jour même, il n'y avait plus de place effectivement pour 19h. En même temps, il était 19h quand j'ai eu l'info, mais 22h, il y avait large de la place. Il y avait large de la place, donc effectivement, tu confirmes qu'il galère à remplir.
Alors, tout simplement, la première jauge a mis 3 jours à se remplir, ce qui n'était pas pensable avant pour des chapelles à Paris. Hein.
Bah, c'est intéressant ça.
Ben,
Et comment vous l'expliquez, vous?
j'ai des gros insiders, c'est pour ça. Non, je l'explique, c'est moins. Ben, ouais, on m'a dit, c'est moins sexy, quoi. C'est beaucoup moins sexy d'aller voir des chapelles à Paris aujourd'hui, alors qu'il est passé plusieurs fois, ça a perdu de la cote. Et deuxième truc, c'est que. Déjà, le public du stand-up en anglais à Paris, c'est vraiment une niche, tiens à restreindre.
Bah oui.
Et troisième faisceau, c'est 140 euros la place, quoi.
Ah,
Ah ouais.
on avait dû commencer par là. Dave Chappelle, il est bien, mais est-ce qu'il vaut 50 balles?
Bah,
C'est une grande question.
je te raconte mon processus à moi quand j'ai eu l'information. Bon, déjà, premièrement, pour répondre à ta question, comment ça se fait, moi, j'avais pas l'info. Si Burek ne l'avait
Ah
pas
oui.
dit, je l'aurais pas su. Donc, même si je voulais mettre 150 balles, j'avais pas l'info. Bon, déjà, il y a un problème
Si tu avais eu
d'information.
l'info, je lui dirais bien. Si tu avais eu l'info en tant que fan de stand-up, tu aurais peut-être envisagé de les mettre. Ce n'était pas un problème le prix pour toi.
Pas les 150, mais j'ai mis 50 moi. Et 50, ça allait. 150,
Ah
c'était peut-être un
putain.
peu gourmand. Mais 50, ça
Mais
allait pour moi.
tu aurais réfléchi à 150? Sérieusement?
Tu sais,
Putain,
maintenant que
bâtard.
j'ai vu son spectacle, en plus, on en parle à la fin, mais vu la
Ah,
précision qu'il a faite,
intéressant.
150, non.
Ok,
Pour le
intéressant.
coup. Vu la
Après,
preuve,
je pense
là.
que c'est il y a un truc, genre, il y a des gens que tu veux voir au moins une fois dans ta vie, quoi. Donc, voir Dave Chappelle, peut-être les premiers 150 euros, tu les mets, parce que
Oui,
pour dire que
exactement.
tu l'as
Tout à
vu,
fait.
quoi, ah ouais, je l'ai
Tout à
vu.
fait.
Mais oui, et pour 5e année de suite, tu dis, oh, c'est bon, là. Tu sais, blague de
Bah,
bite, en plus.
après, pour être transparent, pour moi, voir Dave Chappelle, ça reste toujours une masterclass. En fait, tu prends une claque de stand-up en live, tu respires le truc devant toi. Donc, c'est en vrai, 150 euros, ça le fait. Sauf, mais je ne veux pas spoiler la fin.
Je vois très bien où on va aller
Tu
parce que
vois. Voilà.
je sais pourquoi. Alors,
Donc.
150 euros.
Donc moi, 50 balles, j'ai mis 50 balles, et en vrai, juste pour raconter, pour répondre à ta question de hype, quand j'ai eu l'info de Briac, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie d'aller forcément tout seul, donc j'ai écrit au moins 10 potes humoristes, parce que déjà, rappelons-le, en vrai, c'est les humoristes qui veulent voir Dave Chappelle à Paris, ou les
Oui, c'est
anglophones.
ça.
Il n'y a pas de gens random comme ça qui apparaissent et qui disent, bonjour, I want to see Dave Chappelle, j'adore l'humour francophone. Donc, j'écris à 10 potes humoristes, et la plupart me disent, ouais, je pourrais, un, je parle pas bien assez anglais, donc ça va me faire chier, je comprendrai
Tout
rien,
à fait.
deux, deux, c'est trop cher. Et en vrai,
Non,
il y a
mais
des gens, j'étais
les
prêt.
gens, du
J'étais
coup,
prêt à mettre 100
vous,
balles.
les... Non, mais c'est bien,
J'étais
mais
prêt à prendre
les
deux billets,
auditeurs,
si
ils
tu
te voient pas, les auditeurs te voient pas, mais quand tu dis j'ai mis 50 euros, t'as levé les mains comme genre en t'excusant. Non, mais les mecs, j'ai mis 50 balles, mais tu lèves les mains en l'air comme si, excusez-moi, genre, si que tu t'es fait choper en train de tromper ta meuf, tu... Non, mais c'était la voisine, je suis désolé. Donc, ah oui. Ah, mais c'est
non,
très
mais.
intéressant.
J'étais même prêt, il y a des potes que j'étais prêt à payer pour qu'ils viennent. En fait, je voulais prendre deux billets. J'ai 50 balles, je mets deux billets, je m'en fous. Je peux pas mettre 100 balles, faut qu'on passe un bon moment avec
Ouais.
Dave Chappelle, tu vois. Mais ces potes en question n'étaient pas disponibles, donc du coup, j'ai pris. Je voulais pas prendre deux billets et perdre 50 balles. Vraiment, c'est trop. Là, c'est gourmand.
Oui,
Donc
bien
là,
sûr.
j'ai pris une seule place, je suis allé tout seul, j'ai parlé à des potes. Certains n'ont pas pu venir, d'autres ont eu des invitations, les bâtards. Mais
Ah
c'est une
ouais.
autre histoire. D'autres ont eu des invitations, mais comment dire. Trop tard, j'avais déjà payé ma place, quoi. C'est bien
En
plus
fait,
cher.
la deuxième séance, pour vous dire un truc, la première, c'est en pic le lundi. Et ils ont ouvert la deuxième séance entre le lundi et le mardi, pour le jour même. Et donc, cette séance, c'était histoire d'eux. Pour tout vous dire, moi, je ne suis pas sûr que j'aurais mis les 150 euros si j'avais su qu'il y avait une deuxième séance. Parce que j'avais quand même l'espoir que le show dure 4 heures.
Ah
Ah
ouais,
oui.
d'accord.
Et il aurait duré 4 heures s'il n'y avait pas eu la deuxième séance, parce qu'il a couvert des enjeux derrière. Mais il était chaud. Donc ça a bradé la deuxième séance. C'est pas un désaveu, mais bon, voilà, ils ont bradé, il y en a qui sont venus comme ça. C'était autre chose. Maintenant, je vais vous parler un peu des à côté du show, comme ça vous les avez, et après on rentre dans le show, ça va.
Allez.
Déjà, il faut savoir quelques exigences de Dave Chappelle et pourquoi il vient faire des shows à Paris. Il vient en fait parce qu'il a sa fille qui fait ses études à Paris.
Ah oui, okay. Comme Chris Rock.
Binard, ouais.
Chris Rock, c'est terminé. Chris Rock, sa fille, elle faisait des études genre de pâtisserie ou quelque chose, c'était dans la bouffe. Et je crois que c'est terminé. Chris Rock et Dave Chappelle, lui, il a sa fille qui est ici. Donc, quand il vient, il essaie de faire double plaisir.
Ah ouais, okay. Ça, c'est bien ça.
C'est malin, hein.
Ah oui,
juste un truc, il ne faut pas déplacer un truc sur la table s'il y a quelqu'un qui déplace un...
Ouais.
Là, super. C'est bon, parce que nous, on a des audiophiles qui me disent « Moi, j'écoute ça avec ma chaîne audio et ça me dérange quand on bouge des choses. »
Très bien.
Alors, après, il y a... Donc, il vient avec ça. Les exigences qu'il y a eues sont des exigences assez marrantes. Je ne sais pas, cette année, il a exigé les mêmes choses, mais moi, pour avoir parlé à des gens qui ont encadré sa venue les années précédentes, on va dire, il faut 8 bouteilles en coulisses.
2.
Il faut une bouteille de whisky japonais assez rare. Il faut genre 3 bouteilles de vodka, 4 bouteilles de tequila ou un truc comme ça.
Ils sont combien?
Oui. Il y a de la tequila, c'est sûr. Ils sont combien? Je pense qu'il a bu toutes les 8 bouteilles avant le second show.
Ils sont combien pour... On va arriver au show, on va te dire, mais pour répondre déjà, lui ne vient a priori qu'avec une seule personne, c'est son DJ, c'est DJ Trauma. Mmh. Le reste, ce sont des pièces rapportées par Live Nation. Mais on va en parler. Mais a priori, c'est pour eux. Je suppose qu'il y a d'autres que copains en coulisses. Mais nous, on les voit jamais. Ce n'est pas des copains humoristes, quoi. En tout cas, ils ne sont jamais apparus sur scène.
Et c'est pour dire, même s'ils sont deux, je pense qu'il peut gérer les bouteilles tout seul, notre entendez. Il faut le savoir.
Tu serais mort. Non, tu ne peux pas.
Écoute.
Je sais pas. Dave Chappelle, c'est un grand artiste. Donc, peut-être qu'il a un foie de fou, mais je sais pas, c'est impressionnant. Quoi.
Mais on va te raconter comment ça se passe le spectacle. Tu vas voir que déjà, il a entamé le capital bouteille.
Ah ouais.
Alors, Léa, du coup, attends, ouais. Juste avant le spectacle, est-ce que du coup, les premières parties, c'est Live Nation qui les trouve, qui les colle à lui ou bien est-ce qu'il a son
Je suis sur le site de Live Nation et je suis en train de me dire, je suppose, parce que ça fait sens avec leur programmation à eux. Okay. Ça fait pas sens avec son entourage, mais plus sens avec sa programmation à eux. Et tu voyais bien qu'il n'y avait pas une franche camaraderie entre eux.
Ouais. Ok.
Allez, on part sur l'expérience globale, comme ça vous l'avez. Là, l'endroit se situe à côté de la Place de la République à Paris. C'est une salle de 600 places. Donc, c'est ce qu'on appelle intimiste pour Dave Chappelle.
Bah oui.
La configuration est très intéressante parce que c'est pas 600 places en longueur, c'est un vrai théâtre avec des balcons et tout. Donc, on est plutôt en train de l'entourer. Et ça ajoute de l'effet intimiste.
Ouais.
Donc, l'arrivée, tu te mets dans la rue, tu te mets dans la file. Et là, on vient te donner un petit post-it en te disant c'est quoi ta place. Ta place, si tu dis c'était rang 5, place E. Voilà, il t'écrit sur un petit post-it, rang 5, place E, tu te dis, mais pourquoi, je suis pas bête, je me souviendrai de ça. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, dès que tu rentres dans la salle, on te donne une pochette spéciale, c'est un système de sécurité dans lequel on te demande de mettre ton téléphone éteint. Tu éteins ton téléphone, il vérifie, tu le mets dans la pochette, il verrouille la pochette et il te la rend. À partir de là, on te dit, tout ce qui va être système d'enregistrement, que ce soit téléphone, même des écouteurs et tout, tu n'as pas le droit de les avoir. Monde connecté, tu n'as pas le droit de l'avoir. Tout mettre dans la pochette. On te dit, on te la déverrouille quand tu sors.
Waouh.
Mais toi, tes billets, ils sont où, d'habitude? Ils sont dans ton téléphone.
Oui.
Donc, c'est pour ça que tu as ce fameux post-it qui est pour te rappeler où tu étais placé.
Waouh.
Donc, tu rentres. Alors, le système se fait. Ouais, moi, pour être arrivé assez tôt, ça se fait très facilement. C'était harmonieux. Bon, tu mets, tu rentres. Et là, il se passe un truc qui est incroyable, c'est que tu t'assieds et tu n'as pas de téléphone. Donc, tu te fais un peu chier.
Ah oui. D'où le fait de ramener un ami.
C'est ça.
Si t'en as.
Le fait d'avoir un ami. Un ami et... comment dire? Et tu as un DJ sur scène aussi.
Ouais.
Tu as un DJ sur scène qui est là et qui occupe l'espace. Donc, ça passe des bons sons. Et toi, tu te dis, putain, je m'emmerde un peu. Quelle heure il est? Tu sais pas. Et là, tu regardes un peu plus la salle, tu regardes qui y a dans la salle. Tu dis, ah, il y a Florence Foresti, ah, il y a machin, ah, il y a mon collègue de stand-up. Non, mais quand tu t'embêtes, tu vas parler à tes collègues. Tu te lèves, tu déranges un peu tout le monde, tu vas parler à tes collègues. Et tu sais quoi, tu vis une expérience qui ressemble aux années 90. C'est-à-dire, tu redeviens un être humain qui s'ennuie, qui veut s'occuper, qui parle à des gens, qui échange, qui sociabilise, qui fait des blagues à son voisin.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est trop bien. C'est-à-dire que le premier effet, essentiellement, de donner le téléphone, c'est « s'il vous plaît, ne filmez pas, c'est dangereux, il ne faut pas filmer ».
Et en vrai, si on quille trois bouteilles de vodka, on ne veut pas que ça sorte.
Et le dit clairement, nous, il nous a clairement dit, si vous filmez, si vous faites ça, vous serez sorti, mais pas de façon gentille, vous serez expulsé de la salle. Et je sentais qu'il rigolait pas, que les sécu rigolaient pas sur ça. Et on se retrouve, on se dit, à la base, on ne doit pas filmer, mais ce qui est en train de se passer, c'est juste que notre attention, elle est démultipliée, et notre attente aussi, c'est-à-dire que dès qu'il va se passer quelque chose sur scène, tu vas le regarder. La première chose qui se passe sur scène, c'est la... C'est le mec qui mixe des bons sons des années, je dirais, 80. Je ne suis pas expert en rap, mais qui avait l'air de faire plaisir à tout le monde. Et après, boum, première partie, alors que les gens s'installent encore, les gens arrivent très tard. C'est incompréhensible. Le show à 19h, les gens continuent à arriver à 19h40 massivement.
Ouais, c'est ouf.
Mais après, peut-être qu'ils savent que
ça ne démarre pas tout de suite. Ouais.
Oui.
Ah, mais si tu arrives qu'on te bloque, parce que tu sais, les théâtres, si tu n'es pas à l'heure, ils peuvent t'empêcher l'accès à la salle. Si tu arrives, mal, on te dit non, vous restez dehors, tu le fais qu'une fois dans ta vie, ça.
Mais oui, c'est sûr. Ouais.
Donc, première partie, nous, on a eu Paul Taylor en premier. Est-ce que tu as eu ça, Maoulet?
Pareil.
Paul Taylor, lui, tâche difficile parce que les gens ont littéralement s'installé.
Oui. Pareil pour moi aussi. Les gens s'installaient encore, les gens rentraient. Et en plus, vraiment... La 22h, comme c'était pas complet, on pouvait se déplacer après. Tu avais ton numéro de place, mais tout le monde. Ouais. À la fin, personne n'était assis à sa place de base. Tout le monde était assis à une meilleure place.
Ah ouais, trop bien.
Tu vois, donc du coup, Paul, il a dû bosser dans des conditions un peu bagarreuses. Mais il s'en est
sorti. Un peu bagarreuses. Il s'en est sorti. Moi, c'était. Vraiment, c'est pas. C'était très dispensable, à mon avis. C'est vraiment... Non, mais...
Qui fait la première partie de Dave Chappelle. Non, c'était dispensable.
C'était large. Non, mais pourquoi? Je vais pas te dire. C'est
drôle. Hein,
c'est indispensable. C'est clairement pas la routine que j'aime, ce qu'il a fait. J'aime pas ça. C'était sur une mécanique. C'est quelqu'un qui a rempli des belles salles en France. Et il a une belle aura. Il a beaucoup travaillé avec Canal+. Voilà,
c'est un français.
Ça bosse bien et tout. Moi,
c'est un anglais, français, je crois. Il est les deux.
Ah, ok.
Ouais, franco-anglais. Mais il a fait des montreux. C'est quelqu'un qui a de l'aura et tout. Mais ouais, pour le coup, sur cette première partie, aucun intérêt. La mécanique, c'est il y a des mots en anglais, il y a des mots en français. Et un trompe l'autre. Donc, c'est très grand public.
Ouais.
Il n'y a pas de souci. C'est un mec qui fait très bien son taf. Juste son acte ne m'intéresse pas. Mmh. Maintenant, il était dans les conditions les plus dures.
Mmh.
C'est impossible à refuser dans son cas. Je ne vois pas un monde où tu refuses de faire la première partie de Dave Chappelle. Ça doit faire sens avec son actu et le fait qu'il doit avoir des dates avec eux. Donc, il a bien fait de faire. Moi, ça ne m'a pas intéressé. C'est pas grave. C'est même le truc. C'est dit, putain, c'est poussif. Et après, il y avait une deuxième première partie. Et là, c'est le paradoxe, c'est que je n'ai pas retenu le nom, mais par contre, j'ai adoré l'acte.
C'est le mec qui avait un accent scottish un peu, non?
Exactement.
Bah, il était très bon.
Ouais, c'était bon. Un écossais là avec un gros storyteller.
Ouais.
Et c'était vraiment pas mal. C'était du bon stand-up. L'accent, ça pouvait être un vrai frein à la compréhension de 90% de la salle. Moi, je regarde pas mal de séries anglaises, genre Brassic et tout, donc je comprends. Mais tu sais, ils utilisent, au lieu de dire « my dad », ils disent « me dad ». Il y a des mots qui sont quand même un peu différents dans la façon dont tu prononces.
Ouais, clairement. C'est Game of Thrones un peu dans sa prononciation. Il y a vraiment un truc... Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à la Briag, justement, c'est que j'ai eu les mêmes deux premières parties que toi, j'ai un peu le même ressenti. Je ne peux pas aussi dur que toi sur ce que Paul Taylor a fait. Mais effectivement, des deux premières parties, celui qu'on ne connaissait pas était beaucoup plus captivant. Maintenant, il fallait bien quelqu'un pour prendre les balles pendant que tout le monde s'asseyait.
Il a pris les balles, il a bien fait.
L'ordre était bien choisi, si tu veux. Ça aurait été dommage qu'on ait l'Écossais qui prenne les balles et qu'on n'ait pas pu avoir toute l'attention, plus l'accent qui est compliqué, plutôt qu'au Paul Taylor, qu'on maîtrise, on comprend ce qu'il raconte. Bon, c'est des jeux de mots sur les... C'est pas très grave si on n'entendait pas tout. On comprenait que si tu n'entends pas toutes les blagues, tu comprends l'idée globale du sketch. Voilà. Alors que l'autre, vraiment comme sur un storytelling, beaucoup plus poussé, il y a vraiment des running gags que tu raterais, il y a plein de trucs importants qu'il a installés au début, bref. C'était l'ordre idéal, moi je dirais.
C'était très bien, et voilà. Et puis le public, nous, pour te dire la typologie du public, il n'y avait pas tant de stand-upers que ça. Ouais. Je pense qu'on était, allez, on va dire, j'allais dans le 10, donc doublons, il y en avait 20. Après le reste, il y avait beaucoup de...
d'anglophones.
Parce qu'il a demandé des chapelles. Ouais, d'anglophones, mais plutôt de pays arabes. Il y avait, tu vois, algériens, tout ça. C'était assez intéressant, tu vois là.
Au second, à 22h, c'était pareil. Il y avait beaucoup du Maghreb et des pays arabes. Je sais pas, c'est le nouveau fan, je sais pas. Mais quand j'étais allé les premières années où je l'ai vu, il n'y avait pas autant. Je sais pas, c'était pas aussi représentatif.
C'était mieux avant.
Comme dirait Le Pen, avant ça allait quoi. Avant, là il commence à vraiment prendre de la place.
Non, mais dans la culture, on peut supposer que dans la culture stand-up, elle a touché une autre type de population, comme le hip-hop a touché un autre type de population.
Oui.
Ouais. Et je suppose que c'est ça le truc. Donc il n'y avait pas tant de stand-upers que ça. Il y avait quelques anglophones, mais qui ne. Nous, on a eu quelques personnes qui étaient américaines et qui étaient installées en France ou anglais installées en France. Donc, on profitait de l'occasion pour aller voir Dave Chappelle, mais c'était une minorité. Il y avait peut-être, je ne suis pas sûr qu'il y avait plus de 5-6 personnes comme ça dans la salle. Donc, une anglaise qui a beaucoup interagi avec lui, une américaine qui a énormément interagi. Et il faut le savoir, c'est que Dave Chappelle, nous, dans notre cas, il accepte toutes les interactions. Il accepte, même si ça dure un quart d'heure. Et il essaie pas de casser l'interaction, c'est-à-dire il se nourrit d'interaction, il prend les infos, il parle, il essaie pas à chaque fois que l'autre dit une phrase, hey, ton métier c'est ça. Ouais. Non, il n'est pas dans la rigolade. Il
raconte pas ta vie.
il parle. Tu habites Bayawa, ouais, c'est un endroit un peu bizarre, non? Il se passe ça. Il arrive à rebondir, mais il ne ferme pas l'interaction. Donc ça peut paraître relou des fois. Des fois, surtout quand l'interaction est très intéressante, il y avait un gars là qui parlait, c'était un peu incohérent ce qu'il disait. Quand c'est incohérent, il arrive à clôturer de façon marrante. Mais quand c'est intéressant, il accepte 100% la vérité de l'autre. Et ça, grande leçon de stand-up.
Mais oui.
Ouais.
Je pense déjà, c'est le truc que tu peux te faire plaisir quand t'as ton heure, quoi. T'es dans ton heure et il va rien se passer après parce que t'es Dave Chappelle. Quand t'as un timing précis, tu dois faire 10 minutes de blague ou que tu as ton heure et ça joue après, t'as pas le temps d'écouter quelqu'un raconter sa vie depuis son arbre généalogique depuis le début. C'est plus compliqué, quoi, déjà.
Ouais, mais c'est sûr. Ce qui limite sur ça, moi, je trouve, c'est que souvent, les gens essayent de... Alors, tu as un couple, lui, il a dit que non.
Oui, c'est des gimmicks. Je comprends, c'est des gros gimmicks. Que...
Rebondir. En fait, c'est la nécessité de vouloir être drôle à chaque phrase ou de reformuler. Mmh. Il y a des gens, tu verras quelques captations où toute la mécanique... Tu n'entends pas ce que dit le public, par exemple sur les interactions que les gens postent sur Instagram, mais toute la mécanique, c'est de reformuler ce qu'a dit le public. Ah, tu viens de Roissy? Ah, c'est bizarre, Roissy, il n'y a que des avions. Tu là, tu dis, putain, mais chaque phrase qu'elle va te dire, tu vas essayer de rebondir dessus. Et dans la vie, tu ne veux pas faire ça. Dans la vie, dans la vérité d'une conversation, ça n'existe pas, ça. C'est ça. Et là, Dave Chappelle, il la ramène la vérité, c'est-à-dire une conversation, ce n'est pas essayer de mettre en boîte tout le temps l'autre. Si tu tends aussi à des perches, il n'est pas fou, il va les saisir. Mais c'est juste... Vraiment, l'interaction ressemble à sa persona. C'est-à-dire que quand c'est parti sur des choses drôles, ça partait de lui et du fait qu'en face, il avait une femme. Donc, il a commencé à faire à un moment, à faire un peu le beau, à se déboutonner le manteau. Et voilà, et à rentrer dans un jeu sexy avec elle. Et pas du tout, ce n'est pas du tout des rebonds sur ce qu'elle disait, qui était plutôt intéressant en plus.
Alors, je pense que quand tu fais des interactions, il faut soit tu es prêt à avoir une vraie interaction, soit il vaut mieux ne pas le faire. Parce que justement, ça, tu demandes une question et tu poses une question, la personne te répond, tu dis ouais, ta gueule, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, ne le fais pas alors. Mais c'est cool quand tu. Toi, et moi c'est un peu ma philosophie quand moi je suis sur scène, c'est moi et cette personne, si on discute. Peut-être que tous les deux, on peut faire rire la salle. Mais c'est tous les deux. C'est pas se dire, t'es moche.
C'est pas à son dépend.
Ah oui, c'est ça, parce que ça sert à rien, quoi.
Après, pour rebondir sur ça, en vrai, Dave, il est comme ça dans tout son passage. D'ailleurs, c'est en fait ce truc de prendre du temps, d'être dans son propre rythme, d'installer un truc, de s'en foutre. Il s'en fout pas des rires, mais il n'y a pas la pression de rire toutes les 8 secondes. Il est là, il raconte son truc. Et ça, c'est vrai dans l'interaction et dans son flow. Ça, c'est très concret, quoi. C'est très vrai. C'est une des leçons à retenir, c'est la prise de temps, la présence, être là et raconter ce que tu as envie de raconter, quoi.
Moi, la grande leçon, je vais être... sans sauter à la conclusion, j'ai tiré une grande leçon. C'est que sur scène, il est libre parce qu'il est fort. Et il est fort parce qu'il est libre. Et il y a vraiment quelque chose qui se nourrit. Ça lui permet... Le fait d'être puissant, le fait de savoir qu'il est drôle, ça lui permet de faire ce qu'il veut sur scène. Et comme il fait ce qu'il veut, nous, on a l'impression de se dire « Putain, qu'est-ce qu'il est fort dans cet espace de liberté ?» Et le premier à l'espace de liberté qui s'octroie, c'est « Il fume sur scène. »
Déjà. Mais c'est drôle parce que le public te rejoint dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Si oui. T'es un mec détendu, t'arrives, les mecs, je gère. Toi, tu dis, ah, il gère, et t'es bien. Si t'arrives, t'as la voix qui chevrotte, bonsoir. Tu viens, il est stressé. Donc, lui, il est chez lui, et toi, t'es chez lui, et donc, voilà, quoi. C'est pas mal, ça.
C'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps, je pense, quand tu es jeune humoriste ou même humoriste, à comprendre ce qui se passe dans les 30 premières secondes quand tu montes sur scène, dans la première minute. Qu'est-ce que c'est ce. C'est quoi l'échange qui est en train de se passer? Comment tu es lu? Comment tu es perçu? Et c'est pas ce que tu dis. Hein. C'est vraiment, il y a une vraie lecture quand tu vois quelqu'un te dire, est-ce que lui m'inspire de la confiance? Est-ce que je m'en remets à lui pour passer un bon moment?
C'est ça.
Et même des fois, moi, c'est arrivé qu'on me dit, putain, on ne sait pas si tu es inconscient. Tu vois, ça m'arrive, tu vois, d'arriver de poser le personnage et quelqu'un me dit, putain, on ne sait pas si tu es inconscient ou quoi parce que tu as l'air d'avoir d'être tellement sûr de toi que ça va marcher, alors que tu vois, je prends le temps des fois de poser un truc et dis, ah, ça fait peur des fois à des potes humoristes, à des gens dont je fais la première partie. Ils disent, waouh, tu nous fais peur quand tu fais ce truc-là, parce que, mais moi, je sais où je vais, je suis tranquille et je sais surtout que je ne peux pas commencer avec les blagues de but en blanc parce que je vois qu'il y a une lecture qui doit se faire et que je dois me faire apprécier, me faire comprendre.
Ok. S'établir la relation, c'est vraiment le truc le plus important. Il y avait un gars qui disait, moi, je sors les blagues que si la relation ne marche pas. Mais c'est ça, c'est quand tu arrives et tu fais croire aux gens que pour rien au monde, tu serais ailleurs avec d'autres personnes et que t'es heureux d'être là, d'être avec eux et que tu vas passer un moment agréable, c'est cool. Alors que si tu arrives et tu dis bonsoir et les gens te répondent en cœur bonsoir, et tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, ça commence... C'est chelou. Et
j'ai déjà dit, mais il y a une nana, Marie Guibourg, qui a mis en scène des gens très intéressants comme Fabrice Séboué, Arnaud Demanche et tout. Elle m'a vraiment traumatisé sur bonsoir. C'est-à-dire, j'arrivais, je faisais bonsoir, comment ça va, Edou? Elle me dit, mais ça veut rien dire, parce que ça ne veut rien dire. On comprend. Tu dis bonsoir, mais tu dis bonsoir à qui? Comment ça veut... C'est pas toi, tu dis un bonsoir générique. Et ça, ce bonsoir-là, ça a l'air d'une subtilité, d'un truc où tu pinailles, mais non. Savoir dire bonsoir, arriver avec la bonne énergie, ça change tellement de choses.
Ouais, clairement. Ouais. Mais après, Dave, bon, il triche, hein. On parle d'énergie, c'est Dave, quoi. Donc en fait, le travail pour nous acquérir, c'est Dave. Il n'a pas besoin d'en faire plus que ça. Il débarque, il est déjà sur 150% de confiance. C'est compliqué de nous perdre, malgré tout ce qu'il va faire. Ouais.
Mais ça te donne, tu vois, on disait toujours, même le fait qu'on le connaisse, le fait qu'on ait les attentes et tout, ça lui donne 3 minutes d'avance, ça lui donne pas plus que ça.
Mais c'est Seinfeld, ça, il disait ça, toute ma carrière, 3 minutes. Après, il faut être drôle, sinon les gens, s'ils te pardonnent pas, quoi.
Ouais. C'est clair. Et c'est un truc, ça lui donne un peu d'avance, mais après, il faut qu'il déroule. Et nous, il y a quelque chose qui s'est passé, tu me diras si tu as eu la même impression. Moi, il nous a fait croire, l'espace d'une soirée, que c'était quelque chose d'unique ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on est sorti de là en disant, il s'est passé un truc, un événement tellement unique avec nous. Alors, il est arrivé avec une veste, tu vois, toute boutonnée, et ça a commencé comme une conversation un peu banale. Tu vois, vraiment, c'est le début de conversation, ça va, je suis là, et avec des vraies blagues, des blagues construites. Et au fur et à mesure de la soirée, il commence à fumer, enchaîner les cigarettes, et déjà, il y a un truc de très contre-intuitif, c'est que quand il fume, il va aller derrière lui, se retourner pour mettre les cendres dans le cendrier. Donc, il passe une partie de son acte, le dos tourné à toi. Parce que tous les metteurs en scène diraient « Ah, c'est pas possible de faire ça !» Bah, il le fait, ça marche très bien. Déjà, c'est tout à fait possible de le faire. Et au fur et à mesure du show, il a rendu ça de plus en plus intime. Il a enlevé la veste, il a commencé à boire de l'alcool, à rendre ça de plus en plus conversationnel. Et vraiment, il y a eu une progression, mais qui était invisible. Sur un moment, je ne la voyais pas. Et après, quand en lisant, je me dis, putain, il m'a fait le coup de « On est de mieux en mieux chez toi. » Et si je mettais les pieds sur le canapé. Et c'était vraiment de plus en plus ça.
Bah, je vais dire un truc qui va te faire plaisir. Bah, effectivement, c'était unique à vous. Et que nous, les montés sur scène, il était déjà en t-shirt. La veste, il n'a jamais remise. Il n'a jamais remis sa veste. Quand il est venu en mode là, je m'en parlais. Les gars.
On slip à la fin. Ouais.
En fait, vous étiez sa femme, on était sa maîtresse, quoi. Il a déjà tout donné, plus tôt, il n'en donnera pas plus.
Ça, c'est drôle.
Non, c'était unique ce que tu as vécu, Briac. On n'a pas eu de veste, il est venu directement en t-shirt. Et il y avait déjà deux paquets de clopes sur la scène.
Il était déjà bourré ou pas?
Il était déjà bourré. Est-ce qu'il buvait à ton passage, toi, déjà? Est-ce qu'il buvait?
Ah non, il a bu un premier verre d'alcool. Alors ça, c'était assez marrant, je sens le... À spoiler, en fait, il demande un verre d'alcool, une nana du théâtre lui amène.
Mm-hmm.
Et quand il prend le verre, il dit « Thank you, bitch ».
Ok, il l'a refait.
Voilà, donc ouais, c'est un gimmick, donc c'est un vrai gimmick. Okay. Puis le deuxième verre qu'on lui amène, il demande un deuxième verre, si est-ce que je peux avoir un deuxième verre, on lui file de l'eau. On lui file de l'eau et dit « Ah putain, bien joué, vous m'avez piégé et tout ». Et après, il fait « Voilà, je m'excuse ». Je suis désolé, j'aurais pas dû parler comme ça. Est-ce que je peux avoir un autre verre? On lui amène un autre verre. C'est la même nana qui amène, c'est d'alcool. Et après, il fait Thank you, bitch. Et il fait Ah, je t'ai piégé. Là, il fait le mec machiavélique. Et c'était tellement drôle, ce truc-là. Bah, donc, c'est un gimmick qu'il a installé.
Ouais. Il a refait. Il a refait à 22h. Il n'y a pas eu d'eau. Là, vraiment, il rigolait pas. Là, il voulait son alcool H24. Donc, il n'y a pas eu la blague de l'eau. Il a eu le thank you, bitch. Il l'a fait plusieurs fois. Des fois, il n'a plus dit bitch, mais dans l'attitude, c'était thank you, bitch. Après, il s'est excusé à la fin. Mais sache que durant tout le show, il a enchaîné au moins 5-6 verres comme ça.
Mais c'était ouais, il était déjà à 3-4, nous, de notre côté. Donc,
tu vois.
Et tu voyais que là, c'est le physique parlé pour. Tu voyais les pores, ça commençait un peu à suer.
Bah oui. Et aussi, un truc, c'est que. Au début, on ne savait pas ce qu'il buvait. Donc, on s'est dit, ça peut être de la limonade. On n'en sait rien, en fait, qu'il y a dans le verre.
La limonade traditionnelle.
Tu vois, de la limonade pressée avec les mains, et de l'amour. Sauf qu'à un moment, il a dit, ouais, mais le cocktail avec la tequila, arrêtez le cocktail, mettez que de la tequila. Après, le troisième verre, il a demandé que de la tequila. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il y avait tequila plus sucrerie. Il a dit, c'est bon, les sucreries, on en a marre, on passe à la tequila.
Bon, je vais voir des caries, les mecs, arrêtez.
Si tu vois, il en a marre. Il veut pas un diabète.
Oui, c'est ça.
C'est chiant.
Une cirrhose, oui. C'est un truc d'homme. Un diabète.
Death. Je l'ai vu, on l'a vu vraiment, parce que t'imagines bien, après 5-6 verres de tequila plus les 4 qu'il a pris avant, on l'a vu vraiment partir, quoi, durant tout le spectacle. Donc là, je n'aurais pas aimé payer 150 balles pour ça. Pour revenir à ce que j'ai dit au début.
Et je comprends, ça manque de respect. Hein. C'est pas
bien. Après, comment dire, moi, personnellement, j'ai kiffé de A à Z ce qui s'est passé là. Ça m'a coûté 50 balles, ça passe peut-être mieux. Mais j'ai coûté. Parce que, en fait, moi, j'ai des problèmes d'articulation, voilà, déjà dans la vraie vie et sur scène. Et je suis sobre. Donc, tenir un spectacle avec une bouteille de tequila dans le cul, on le comprenait, quoi. Il était très, très articulé, très présent. Ça demande une certaine force, quoi, une conscience. Je ne sais pas comment il fait. Parce que moi, tu me fais 3 verres de tequila, il n'y a plus de débat. Le sketch s'arrête là. Il a tenu une heure comme ça.
Ah oui, oui, oui.
Donc. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a 51 ans et qu'il n'aura jamais 80 ans, je pense. Il n'aura pas 80 ans,
celui-là. Ouais, ça a l'air compliqué. Il a l'air de vraiment brûler la chandelle par les deux bouts. Il a 50 ans, il a, hein, t'imagines ?
51 ans ? Vas-y.
Et le physique, parce que vous, c'était... Donc, il est arrivé en t-shirt et c'est pas d'événement. Mais nous, quand il a enlevé la veste, il a dévoilé un physique de bâtard, vraiment musclé.
Oui.
Musclé, mais toi, Maoulé, qui sait ce que c'est le fin game. Tu vois bien qu'il a un physique qui est à la limite de la testo, quoi.
Bah, moi, je pense que... Et son pote à Joe Rogan aussi, moi, je pense quand même que, oui, à un moment, ce physique-là...
Ce physique-là, c'est pas anodin, c'est vraiment
très bien. Il était tout gringalé avant, il était tout...
Il y a fort longtemps, hein.
Ah oui, c'est ça.
Mais là, il a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'il est épais, mais vraiment bien dessiné, musclé, la taille bien faite et tout. Et ça, c'est des physiques, pour... à moins qu'ils soient très, très dans le fit game. Mais il faut une nutrition particulière pour obtenir ça. Et là,
je dire. On vient de décrire un mec qui a fumé. Il a, en fait, durant toute l'heure que j'ai vu, il n'a pas eu un moment où il n'a pas une clope dans le bec.
Ah, il les enchaîne.
Une heure, donc, il a enchaîné deux paquets. Il a bu cinq verres de tequila. On n'est pas sur un mec qui fait gaffe à ce qu'il mange. Voilà, on n'est pas sur ça. Oui. Donc, s'il a le temps de faire des pompes à côté, malgré ses tournées incroyables, bravo monsieur. Parce qu'en plus, un détail, il nous a expliqué que la veille, il était en Angleterre, je crois, ou aux États-Unis. Et le lendemain, il allait au Maroc. En fait, c'est-à-dire que ça. Là, on le voyait une soirée, le lendemain, il n'était plus là. Je dis, mais c'est quel style de vie d'être... Il passe le temps dans l'avion que dans les spectacles, en fait.
Ah bah alors, avant de te dire, le style de vie, c'est que je sais qu'il y a eu témoignage que quand il fait, des, par exemple, des stats, c'est Joe Rogan qui l'a expliqué ça, il rentre dans un jet, après, ils vont à la date suivante et il se fait réhydrater en intraveineuse.
Oh là là.
Alors, l'IV, pour vous dire, en fait, la réhydratation en intraveineuse, c'est super fort, ça réhydrate mieux. C'est un truc qu'on fait quand on boxe ou quand on est à l'UFC. Quand il y a une perte de poids, vous savez, vous devez être pesé par exemple le vendredi, vous devez être pesé à 67 kilos, tu fais ta sèche et la réhydratation IV, ça te permet de remonter à 90-95 kilos. Mais ça a été interdit dans les protocoles de réhydratation. Parce que c'était problématique et ça exigeait la présence de personnel médical d'encadrement et ça a créé un fossé entre ceux qui avaient le budget et pas le budget pour faire ce type de réhydratation.
Ok. Mmh.
Donc il l'a enlevé, mais lui, je pense qu'il a ce protocole précis de réhydratation et l'alcool, quand tu veux passer une gueule de bois et tout, c'est ça qui te permet aussi de passer la gueule de bois, c'est la réhydratation. Hein.
Donc, en tout cas, on est sur une vie très différente du commun des mortels.
Ouais.
C'est-à-dire que le mec, il enchaîne des spectacles, il doit se faire réhydrater en intraveineuse. C'est une dinguerie.
Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ne me parle même pas de testo, Briac. Du coup, c'est évident qu'il peut se piquer à la testo. Qu'est-ce qui l'empêche? Le mec, il réhydrate déjà.
Ouais,
avec des seringues.
La culture de la testo, elle n'est pas. Parce que nous, on entend testo, on entend un truc négatif, mais la culture de la testo aux États-Unis, elle est. C'est pas la même que chez nous. Tu peux avoir de la testo, ce qu'on appelle la TRT, c'est du remplacement de testostérone, c'est-à-dire arriver à un certain âge, tu ne sécrètes plus assez de testostérone et tu peux remplacer ça. Et donc, ça te maintient un état de forme où ça va te, vraiment, tu vas pouvoir te muscler, tes pecs vont être bien. C'est, quand tu arrêtes, ça tombe. Mais en fait, il n'y a quasiment pas de raison d'arrêter. Bah, ça se fait en massage et tout et c'est très courant. Donc, nous, on est un petit peu en retard par rapport à ça. On est méfiants, mais ça arrivera où on pourra tous se prendre la testo et être tous vénères comme il faut.
Mais selon vous, qu'est-ce qu'il va chercher sur... Pourquoi faire ça? Qu'est-ce qu'il vient chercher à Paris un soir dans un truc qui n'est même pas plein pour se bourrer la gueule, pour se hydrater, repartir? Quel est son...
Il y a un argument. Il a donné un argument. Il a un festival à faire dans deux semaines, de une heure. Il doit jouer pendant une heure dans un festival et il n'a rien écrit.
Donc, c'est à Abu Dhabi, c'est le Comedy Fest d'Abu Dhabi. Moi, je soupçonne de l'avoir déjà fait, mais c'est lui, c'est sa prémisse, c'est ça, c'est qu'il doit faire Abu Dhabi et qu'il doit faire rire des gens qui, à la base, c'est pas ça. Quoi.
Ils sont pas dans le LOL. Ils sont pas dans le MDR, ces mecs.
Abu Dhabi qui regarde avec bienveillance l'alcool.
Non,
Donc sa prémisse, c'est ça. Et il doit se taper toutes les tournées là rapidement pour préparer ce truc là qui allait dans une semaine ou deux, quoi. Parce qu'il a dit oui pour l'argent, je crois. Il dit ça comme ça en plus. Il dit bah, ils ont d'autres.
C'est le 23 mai. Le 23 mai, il fait Abu Dhabi. Et oui, non, mais en fait, là, les pays arabes, ils se payent vraiment des grosses stars. Pour avoir suivi un peu de conversation de gens costauds qui pouvaient être approchés par ça. Ouais, ça vaut le coup. Financièrement, c'est des belles opérations d'aller à Abu Dhabi, de faire ces choses-là. Et ces pays se développent. Pour vous donner un peu le prix des billets à Abu Dhabi, ça va de 500 balles à 1000. Hein.
C'est pas la même ambiance.
Et c'est une grosse... c'est l'Etihad Arena, hein.
Après, Maolé d'Abu Dhabi. Non, 500 balles, je mets. 1000 balles,
je mets.
Non.
1000 balles, non.
1000 balles, non. Je vais prendre deux places, mais j'avais un pote, non.
Après, les 1000 balles, pour ceux qui peuvent se permettre à Abu Dhabi, c'est nos 10 balles à nous. Hein.
Oui, c'est sûr.
Il ne faut pas se leurrer. Et il ne faut pas oublier aussi que ce type de show, ça peut être très corporate, dans le sens où les entreprises peuvent acheter, peuvent faire plaisir à leurs collaborateurs en achetant 100 places. Ça va jusqu'à 2000 balles. Hein, le first row, la première ligne, c'est 2000 balles, 2195 $.
Mais ils peuvent même se permettre de faire ces spectacles à perte, parce que tu as Dave Chappelle, quoi. C'est un peu comme les joueurs de foot dans les ligues, etc. C'est pas le, c'est pas le revenu. Oui, voilà, c'est pas le revenu de la télé, les entrées, qui va payer ça.
Ah bah, mais clairement, voilà. Oui, clairement, il vient, il est payé déjà. On s'en fout des entrées. Hein. Les entrées, c'est du bonus, quoi. Tu ramènes pas.
Oui, c'est ça.
Ces mecs-là lui filent déjà son petit million et après, on verra pour les entrées après.
Ouais. Chapeau.
À ce moment-là, il y aura
un chapeau.
Ouais. Un million plus cher. Pour vous dire, Abu Dhabi, ils sont très, très plaisir. Ils font venir Aziz Ansari, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ailleurs.
C'est clair. C'est clair.
Ils font venir Andrew Santino et Bobby Lee, qui ont le podcast Bad Friends, donc très important aux États-Unis. Ils font venir Andrew Schultz, le 22 mai, Dave Chappelle, Tom Segura, Mancho Brani, Chris Tucker, Joe Coy. Donc, ils se sont fait vraiment...
Ils ont fait un Netflix, en fait. Ils ont fait il n'y a pas justement le festival Netflix à Atlanta bientôt, je ne sais plus.
Non, c'est à Los Angeles et c'est,
Los Angeles.
C'est là. C'est Netflix is a joke. C'est là, donc on va avoir beaucoup de captations.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de Dave dans ce Netflix is a joke?
C'est possible, ça va être un Dave Chappelle and Friends. Ça va pas être un...
Ah non, oui, c'est pas une heure de Dave, quoi. C'est une heure avec... c'est un plateau, quoi.
Ouais, parce que je le vois pas te dire ça. Et surtout, il a tout intérêt à mettre en avant son entourage, là, qui... Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de faire péter des mecs de Dave Chappelle et ça prend jamais vraiment, quoi. Tu vois qu'il a présenté
un spectacle.
Et Donnell Rowling et tout, et tu vois le spectacle, et...
Parce que tu peux être pistonné Et bon, même quand on parlait de trucs MeToo, etc., stand-up et tout, s'il y a des producteurs ou quoi qui essayent de te pistonner en échange de quoi que ce soit, et que tu as une opportunité d'être devant un public, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que tu as une opportunité. Et après, ça risque
de drôle. Le meilleur pote de Dave Chappelle.
C'est
le meilleur pote de Dave Chappelle, c'est pas Dave Chappelle. Tu n'as pas son niveau, tu n'as pas son aura.
C'est comme le frère de Kevin Hart, là, dans son documentaire. Vas-y, t'es mon frérot. Et... C'est impressionnant, ça. Et
Chris Rock aussi. Là. Mais non, mais c'est normal.
Son petit frère aussi. Ouais.
Tu n'es pas cette personne-là. Et tu peux fréquenter, tu peux être tous les jours avec Florence Foresti, tu peux être tous les jours avec qui tu veux, avec Paul Mirabel. C'est pas toi.
Mais est-ce que c'est pire, du coup, de les fréquenter, dans le sens où, est-ce que en les fréquentant trop près, t'es pas dans leur ombre immédiate? Tu vois, et du coup, il y a une comparaison trop flagrante qui t'empêche de briller par toi-même, tu vois.
Ouais. Ça dépend de ta capacité à réfléchir. Ça dépend de qu'est-ce que tu en tires. Non, mais je vais être très clair. Pour moi, vivre ça à plusieurs niveaux, je l'ai vécu avec deux, trois artistes déjà. Déjà, la première chose que j'ai posée comme base, c'est « et je ne suis pas eux, et je n'ai pas à l'être ». Personne n'attend que je sois eux. Et surtout, il ne faut pas que je me prenne pour eux. C'est pas parce que je suis dans la même voiture qu'eux que je suis lui. Et si la voiture le roule, c'est avec son essence et parce que c'est avec sa fame. Si on fait des dates remplies, c'est avec son truc. Donc moi, je suis un petit bonus et je suis en coulisses. Je suis le mec des coulisses, je suis le mec où je suis la première partie et je ne suis pas eux. Et c'est très bien mentalement de se dire ça. Parce que très vite, tu crois...
Tu peux confondre.
Il y a des gens qui confondent totalement. Mais leur succès, c'est pas ton succès, ça n'a aucun rapport. Par contre, j'ai eu la chance de collaborer avec des gens qui étaient soit obsédés, soit qui étaient vraiment dans la vanne, tu vois, qui étaient très focus sur le spectacle. On était sur des projets. Donc, j'ai tiré bénéfice à chaque fois et je continue à tirer bénéfice de leur obsession. C'est-à-dire que mon niveau, je vois qu'ils challengent mon niveau en permanence. Ils ne me font pas de cadeaux. Si ce que je fais, ça boite, ils me le disent direct. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent la même chose de moi.
Ah.
Ils ont pas d'ego. Ils me disent, si dans le show il y a un truc qui va pas, tu me le dis. Et dans la voiture, les deux heures qu'on met à revenir dans la voiture, tu vas me dire exactement ce qui va pas et on va le travailler. Et je vais t'envoyer 200 textos tant qu'on n'a pas résolu ça. Et cette exigence là, moi, ça rehausse mon game. Mais vraiment, ça m'amène ailleurs mentalement. Ça m'amène ailleurs. Et à chaque fois, j'en tire une leçon qui est très simple, c'est les gens les plus forts sont plus forts parce qu'ils travaillent plus. C'est tout. Voilà, je le dis.
C'est rassurant même. Mais c'est rassurant d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, à tout moment, si on sort les doigts et qu'on bosse fort, 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 ouais, ça devrait suivre.
On a peu plus de chances d'être chanceux. Mais plus tu bosses, plus tu as de la chance. Mais tu peux ne pas l'avoir.
Et surtout, le mental, tu vois que c'est comme des chapelles. Ils sont forts, ils gagnent de la liberté, et ils se servent de la liberté pour être forts. Je vais prendre le cas d'Elodie Arnaud. Elodie Arnaud, elle est suivie, elle fait des projets. Comme elle a ça, ses accès au Comedy Club sont facilités. Elle se sert ses accès faciles au Comedy Club pour préparer des spectacles, des projets plus fous. Et comme elle fait des projets fous, elle gagne plus de liberté. Tu vois, ça tourne comme ça. Et pareil, moi, je avec des comédiens qui ont de la notoriété, ils peuvent se permettre des drop-in. C'est-à-dire, ils arrivent dans un Comedy Club, disent « Est-ce que je peux rentrer et sortir ?» Oui, mais ça leur permet aussi, s'il y a une blague qui boite, d'arriver, par exemple, au Paname, de dire « Est-ce que je peux faire un drop-in à midi, un drop-in à 14h, un drop-in à 15h ?» et de concrétiser leur envie. Et ils n'enlèvent rien à personne. Hein, parce que ce n'est pas eux qui vont prendre du chapeau, quoi. Ils n'enlèvent rien à personne. Juste, ils prennent du temps de scène. Le public, c'est un bon cadeau pour le public. Et eux, ils peuvent vraiment travailler. Ils peuvent bosser. Ils peuvent bosser cette unité-là. Et ça les... C'est virtueux. Vraiment, le succès, pour moi, je vous le dis, hein, j'aimerais avoir plus de succès, c'est pas pour avoir plus de monde, quoi, c'est juste parce que ça permet de mieux bosser, tu deviens de plus en plus fort quand tu bosses bien.
Donc pour résumer ton truc, c'est il faut traîner avec des gens forts, mais sans se comparer à eux. Bah, pour résumer, alors, l'idée c'est, si je pouvais traîner avec Dave Chappelle, évidemment j'y vais, mais à aucun moment il faut me dire que je suis Dave Chappelle, pas que j'ai 3 bouteilles de tequila comme lui, que je suis le même gars que lui. C'est ça.
Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dans cette relation? Moi, ce qui est hors stand-up avec mes camarades, je suis pas le plus friand. En fait, il y a certains trucs où vraiment, ça me dérange pas de dire, les gars, je vous quitte, je vais aller jouer au poker en ligne. Mmh. Et ça rassure tout le monde, en fait, parce que je suis dans la relation, dans ces relations-là, je suis dans une relation de stand-up. On est là pour bosser. Dès le moment où on bosse plus, et c'est normal parce qu'il faut pas une soirée, je comprends, quand tu viens de jouer, que tu as peut-être plus envie de bosser à ce moment-là. Moi, je n'ai plus de plus-value. Je peux boire un coup, quoi, mais si je sens que ce n'est plus ma place, je pars. Et j'ai pas besoin d'avoir tous les à côté, d'avoir un je m'en. Ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas forcément l'autre. Je ne suis pas le mec le
plus fun.
Le plus fun avec qui il faut traîner. Ne traînez pas avec moi, laissez-moi.
Jetez-lui des mangas et des jeux, et puis il va faire sa vie dans son coin de la pièce.
Tout à fait.
Ne le mouillez pas après minuit, ça se passera bien.
Par contre, si tu veux parler stand-up, on va en parler jusqu'au bout de la nuit. Et si, chez ces gens-là qui t'inspirent, ces gens-là que tu admires, tu fais leur première partie et tu traînes avec eux et que vous parlez vraiment, vous amenez la conversation sur le truc du stand-up, tu apprends des choses. Et tu apprends un truc qui est... C'est un peu comme en jiu-jitsu, c'est-à-dire que le truc que tu fais au dernier jour, c'est le truc que tu as fait au premier jour. C'est toujours les mêmes techniques que tu réappliques. C'est toujours les mêmes mouvements, les formes de corps. Mais c'est là, c'est la même chose. C'est toujours la même question. Est-ce que c'est assez drôle? Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que ça me représente vraiment? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je connecte au public? Et tout le temps, on se pose les mêmes questions. Et c'est les mêmes questions qu'on devrait se poser au premier jour, qu'on devrait se poser au dernier jour. Que tu fasses une petite salle ou que tu fasses une aréna, c'est vraiment la même chose. Moi, je fais des retours. Quand tu me remplis 3000 places ou quoi, je te jure que je fais les mêmes retours à ces gens-là que je fais au mec qui remplit 30 places. C'est-à-dire, là, il manque un act-out. Là, tu dois aller, là, c'est pas clair. Là, tu dois changer de vocabulaire. Là, c'est la même idée qui revient. S'il te plaît, regroupe cette idée-là. Et c'est la même chose parce que le sport, c'est le même. C'est juste qu'il est joué à différentes intensités.
C'est ça. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai vu un spectacle là, ce week-end. Et j'étais là. Bon, c'était assez bien. C'était très compétent comme spectacle. Mais là, il fait un personnage, c'est un gourou. Il fait un personnage, ça dure genre 10 minutes ce tableau. Et là, à un moment, ce personnage gourou qui est très bienveillant, et le sous-texte c'est que voilà, c'est un gourou, il veut soutirer un max de pognon aux gens, mais il parle à quelqu'un et lui dit qu'il a un physique, je sais pas, moins qu'optimal, qu'il est moche, quoi. Et moi, je suis là, mais non, non, ton personnage, c'est un gourou, oui ou merde, il veut être gentil, il va pas dire à quelqu'un qu'il est moche, non. Et t'es un truc, genre, t'es dans ta tête, mais non, ça peut pas. Dis qu'il est, montre qu'il est moche, mais ne lui dis pas. Et donc, c'est des trucs, t'es là. Et si quelqu'un t'entend, ils vont se dire, mais qu'est-ce que t'as fumé? dis non, tu comprends pas, c'est le personnage, la discipline de ce personnage, il faut, soit tu... Ah. Et donc tu étais indigné ou tu étais super à fond sur un détail, et le public, voilà, mais c'est toujours la même chose.
Forcément.
Donc, mais c'est ça, tu vois ça quand tu vois un film, quand tu vois... Voilà, c'est tout la même chose, on est toujours en train de raconter des histoires, on est toujours en train de se connecter au public, et à tous les niveaux, c'est la même chose, quoi. Et ça, c'est très intéressant.
Ouais. Pour revenir au spectacle de Dave Chappelle, Briac, j'ai deux trucs que j'aimerais qu'on aborde quand même avant de se quitter.
Allez, c'est parti. Il y en a une, je suis prêt à l'écrire sur un papier, je vais la sortir.
Non,
je parie sur ça. Mais si non, tu rigoles, c'est que non. C'est ce que je veux dire.
Je sais, mais je sais pas ce que j'allais dire. Je suis pas. Je suis beaucoup plus diplomate que tu crois, Briac. Je vais juste dire, est-ce que tu te rappelles les sujets qu'il a abordés ou pas? Voilà, déjà.
Oui. Ok. Alors, pour la construction, moi, j'ai vraiment vu le truc de les 20-30 premières minutes. Je peux parier ma chemise qu'elles seront dans le prochain special. C'est-à-dire que le début était très construit et après, c'était plus libre et ça jazzait. Vraiment, ça allait un peu de tous les côtés. Mais oui, les sujets qu'il a abordés, on va être...
Après, il est très actuel. Vraiment... Pour moi, c'était que de l'actualité. J'ai vu que de l'actu, tous les sujets qu'il abordait étaient vraiment dans le présent.
Hein. Les deux trucs que j'ai retenus, c'est qu'on va y aller clairement. Il s'est positionné sur Israël-Palestine.
Oui.
Et il s'est positionné fort et s'est revenu plusieurs fois sous différentes formes.
Totalement.
Il s'est positionné en tant que personne, puis il s'est positionné en tant que musulman.
Ben ouais.
Et il s'est positionné en tant que mec du showbiz.
Mais qui sont qui vit bouteille de tequila. Tequila, excusez-moi, je suis musulman.
Très bien. Non, mais
c'est ramène de la tequila. C'est drôle, ça, mon chéri.
Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est une forme qu'on ne connaît pas. Tu vois, c'est un peu... Je pense qu'ils vivent un islam qui n'est pas celui qu'on vit en France, que les gens peuvent vivre en France. C'est une forme
totalement.
Que... C'est comme le judaïsme, des fois, tu as...
Oui.
Tu vois, c'est à New York. Tu as New York, c'est Hanouka ou quoi. Tout le monde sait que c'est Hanouka et il n'y a pas de souci. Bah oui. C'est un truc qui est intégré, c'est des fêtes qui sont intégrées. Et là, c'est la même chose, il est musulman, mais il boit. Et il te dit, il nous a dit clairement, il a dit, a priori, je ne suis pas un super musulman, vous le voyez.
Ah oui.
Mais ça ne le dérangeait pas, cette contradiction, il l'a portée, il n'y avait aucun souci. Ouais. Et pour le coup, quand même, notre tissu social, j'ai jamais un pote qui va te dire, je suis musulman, et sans qu'il y ait une bouteille, et te dire, je vois que je ne suis pas un très bon musulman. C'est juste... Où on évite le sujet, où on ne met même pas le fait d'être musulman sur la table, mais il y a un truc que lui assumait qui était vraiment, j'en suis un, mais bon, à ce niveau-là, je suis bidon.
Oui, et je rappelle que dans la salle, il y avait un grand pourcentage de personnes musulmanes. Donc, du coup, en fait, ils ont bien vu devant eux un musulman qui défend du coup, ce qui peut leur parler et qui se bourre la gueule en même temps, et il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de débat. Ils n'auront pas de faire la morale. T'es pas un bon musulman, t'as bu de l'alcool. Ils diront rien sur ça, en vrai. Mais parce que c'est des
choses. Tout le monde négocie. Tout le monde négocie sa religion, etc. On s'arrange, quoi. Mais bon, ça m'a fait rire parce que le premier truc, quand tu penses musulman, c'est bois pas d'alcool. Voilà. Ben donc, ouais. Donc, musulman, il s'est positionné.
Parce que, je t'ai dit, nous, on voit une certaine vision et je pense qu'il y a vraiment une autre vision, une autre façon de le vivre. Et cette façon-là, on ne la connaît pas.
Ben oui.
Moi, je ne la connais pas. Et, tu vois, les tatouages, les machins comme ça, c'est des choses, tu vois, qui composent avec, quoi.
Ouais. Après, on a aussi un islam un peu régional français. C'est un peu tout ce qu'on sait. En n'étant pas musulman, c'est un peu ce qui se dit en France, des musulmans de France. Mais est-ce que c'est ça, l'islam? Est-ce que c'est ça que tout le monde vit? On ne sait pas. Mais bon, on est formaté un peu par ce qu'on voit ici.
Oui, mais nous, on a les trucs. Tu vois. Nous, on a toujours grandi avec cette image de tu es dans un club de sport, les mecs ils se prennent la douche habillée, les choses comme ça. Mais ça a toujours été des trucs de... Voilà, c'est les petits trucs qu'on a toujours connus parce que cette culture-là, on l'a, mais c'est une culture francisée ou une culture...
Oui, c'est ça, c'est ça.
De comment ça a été vécu ici. Et je pense qu'ils ont une autre culture aux US de l'islam. Et il doit y avoir un... Et je pense qu'ils ne représentent qu'une partie de l'islam US. Hein. Il n'a pas revendiqué toute une religion, mais c'était... C'est intéressant qu'il assume cette dichotomie. Le deuxième sujet, moi, qui m'a vraiment frappé, qui m'est resté, qu'il abordait, c'est un truc que j'avais vu, qui avait circulé sur les réseaux sociaux, c'est son implication dans sa propre ville.
Oui.
En fait, il habite une petite ville de l'Ohio et il rachète au fur et à mesure les bâtiments inoccupés de sa ville.
Dès qu'il rachète toute la ville.
Il rachète toute la ville au fur et à mesure.
Ah ouais.
Et on ne sait pas pourquoi.
On sait pourquoi.
Disneyland.
Ah, il y a un truc, c'est que quand il y a eu le Covid, tout le monde était bien content qu'il soit aussi impliqué dans la ville parce qu'il a fait vivre la ville. Il ne faut pas se leurrer. Quand il y a eu le Covid, il a dit on fait des... il a fait des grands shows en extérieur, festivals et tout, et ça faisait vivre tous ceux qui préparaient la bouffe, tout ce qui faisait la sécu, tout ce qui faisait la logistique, tout ce qui logeait les gens, ça les a fait vivre. Et là, il fait ce qu'a fait un peu Elon Musk quand il était dans la Silicon Valley. Elon Musk, il a racheté tout son quartier. Il rachetait juste pour être tranquille, juste pour pas se faire chier, parce que c'était son délire, il rachetait tout, jusqu'à ce qu'il vende tout. Et là, on sent que Dave Chappelle, il rachète l'ancienne, là, il a racheté l'ancienne Fireplace, la station de pompiers.
Pour la station de pompiers, ouais.
Ouais, et il a acheté les pompiers, il en a fait un club, je crois.
C'est ça. En fait, il joue au Monopoly, quoi. Il rachète des endroits et lui-même, je ne sais pas s'il sait ce qu'il veut en faire, il n'a pas clarifié dans le spectacle, il explique en tout cas que s'il était blanc et que c'était un quartier de noir, on aurait dit qu'il faisait de la gentrification. Mais il dit que ce qu'il leur fait à eux en tant que noir, à ces blancs-là, est tellement fou qu'il n'y a même pas de nom pour définir ce qu'il fait.
Ah oui, c'est intéressant ça.
C'est un noir milliardaire qui est en train d'acheter, millionnaire j'imagine, qui est en train d'acheter une ville de blancs. Parce que l'Ohio, ce n'est pas l'endroit le plus ghetto des États-Unis, quoi. C'est assez...
Ah ouais.
C'est des blancs, quoi. Et il est en train de racheter toute la ville. Et je pense qu'il a un gros projet derrière. On ne sait pas où il va, mais c'est assez intriguant. Effectivement, il a fait un passage de 5 minutes dessus. Hein. Il a fait des blagues dessus sur les meufs de la...
Bon, lui, on l'avait vu. On avait vu un truc qui était très intéressant et qui dit encore comment Dave Chappelle est mal perçu. Moi, je vois qu'il est mal perçu. C'est que déjà, je connais peu de nanas qui aiment Dave Chappelle. C'est-à-dire que le public féminin, il n'arrive pas à l'avoir. Et je m'aperçois dans mes copines humoristes, ils me disent non, nous, les nanas, Dave Chappelle, ça ne nous parle pas.
Est-ce qu'il n'arrive pas à les avoir ou est-ce qu'il les a perdus avec toutes les polémiques transphobes, etc.
Il les a sûrement perdus. Il ne les éclatait pas, il les a sûrement perdus. Et là, il continue un chemin où il peut perdre encore plus de jambes.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il s'est censuré sur Iron Griff, ou en tout cas, c'est des vannes. Il y a pas mal de vannes régressives à l'ancienne. Quoi. Il y a du racisme, il y a de l'homophobie, il y a de la transphobie. Bon, moi... j'ai rigolé durant tout le show, mais c'est pour dire que tous ces mots-clés-là, tu peux les retrouver dans ce qu'il a fait. Après, il gardera peut-être pas tout ça pour son special, parce que là, c'est pas capté, donc tranquille, il se lâche. Mais tu sais que c'est toujours sur le ton de la blague, c'est jamais premier degré, en fait. Pour moi, en tout cas, moi, je les filme comme ça, en mode, on déconne en ton, blabla. Mais des vannes problématiques, il y en a eu durant tout le passage.
Ouais. Ce que j'ai vu là, dans ces specials qui étaient très décriés, etc., c'est quand tu vas vraiment dans le
fond,
quand tu vas analyser chaque mot et chaque truc qu'il fait, je pense qu'il y a beaucoup eu de confusion entre mentionner un truc et se moquer d'eux.
Totalement.
Et là, des fois, je pense qu'on confond. Dès que tu... Après, bon, c'est ça, si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais si tu ne l'as pas, pourquoi faire? Mais moi, voilà, je n'ai pas vu le spectacle, mais de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'il est très, 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 très limite, mais si tu analyses froidement, un avocat pourrait le défendre.
Mais il n'y a pas d'analyse. Moi, je vais te donner un exemple. Il est sorti un extrait de lui qui intervient au conseil de sa ville. Donc, tu as l'extrait Dave Chappelle au conseil de sa petite ville d'Ohio. Et tu as des gens, des humoristes. Je mets des guillemets, vous ne les voyez pas, mais c'est des humoristes. Parce que je ne peux pas définir qui est humoriste ou pas. Si vous sentez humoriste, vous êtes humoriste, Dieu vous bénisse. Donc, des humoristes qui ont mis sur les réseaux, qui ont mis « Ah là là, Dave Chappelle problématique, il veut faire... et causer problème dans son conseil municipal. » Mais ils n'ont pas vu la vidéo. Ils n'ont pas regardé le fond de la vidéo, ce que c'était. Après, quand tu regardes la vidéo, c'est non. Comme il est propriétaire, il a son mot à dire, on lui demande un mot qu'il n'avait peut-être pas envie de dire, et il est là, il donne son avis, il intervient, il fait des choses. Il ne pose pas de problème. Il intervient comme un citoyen qui est juste impliqué dans sa ville. Il n'y avait rien de problématique dans ce passage-là, mais tous les commentaires, c'est « Oui, il s'appelle transphobe, blablabla. » Et les gars, ça... La vidéo ne retranscrit pas ça du tout. Elle ne le met pas d'une position de faiblesse où il dit un truc problématique. Et vous dites n'importe quoi à ce moment-là, juste parce que ça vous déclenche. Louis Siquet, problématique. Ok, mais en fait, ça ne doit pas être pavlovien, en fait. Ce n'est pas d'échapper le transphobe. Je vous déconseille de penser comme ça parce que vous passez à côté d'un gros truc. Ouais. Et Jimmy Carr, il a sorti un truc très intéressant dans son spécial.
Ouais.
Il vient de sortir une blague incroyable. Il dit la prochaine fois qu'on m'accuse de quelque chose, je vais faire une conférence de presse. Je vais dire « Ah là là, oui, je suis désolé. » On va me dire, ah, mais frère, ça se voit que vous ne pensez pas ce que vous dites. Ah, donc vous admettez qu'on peut ne pas penser tout ce qu'on dit.
C'est ça.
Il a mis fin à la polémique. C'est génial,
ça. Et il a résumé le concept d'une blague, quoi. C'est une blague. Je suis sur scène, j'ai un micro. Il y a moyen que ce que je dis ne soit pas sérieux. Il y a moyen. C'est un spectacle d'humour. Il y a moyen que je tente de dire des trucs violents, mais juste pour le rire. Il se peut.
Mais après, dans la sphère un peu Internet et tout, il y a des gens qui peuvent être déclenchés par un truc, mais il y a aussi, c'est aussi un contenu polarisant qui peut te faire exister. Nous, par exemple, j'aurais sûrement plus de vues en disant « Ouais, Chapelle, cancer, ouais, je sais pas, quoi, que à faire des blagues. » Parce que ça va déclencher des gens, ça va les algorithmes, etc. Ça va provoquer des réactions. Et donc,
tout à fait.
Pour beaucoup de gens, c'est aussi un moyen d'exister. C'est comme un truc qui m'énerve. Voilà, petit coup de gueule du truc. Il y a un match. Allez, soyons fous. Il y a un match de Ligue des Champions. Toi, tu n'as pas le truc. Tu ne veux pas regarder le match. Mais à la fin, tu veux voir un peu les moments clés du truc. Tu tapes. Tu vas sur YouTube. Tu tapes résumé match machin. Il y a un connard qui met le titre, la date du match et tout. Et quand tu cliques, c'est un match de PlayStation. Ils te font. Et ils font des vues comme ça. Et tu es là, tu cliques, ah, merde, c'est de la merde. Voilà.
Tu t'es fait piéger, ça.
Mais c'est à chaque fois.
C'est du troll, ça.
Ah ouais, je ne sais pas si c'est du troll, mais le mec, je ne sais pas. Il fait des. Si tu regardes 30 secondes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pour la monétisation, mais c'est une façon d'exister, d'avoir des vues, ce qu'on veut, des clics.
Et puis de ne pas se remettre en question. Je te jure que si toi tu es bien, que tu remplis tes salles et tout, tu n'as pas le temps pour ça, tu n'as pas le temps pour ces polémiques-là, tu n'as pas le temps pour ces petites choses-là. Et souvent, c'est une couche de l'humour, du stand-up et tout, qui est basse, qui peut se permettre de discuter, de pinailler sur des choses comme ça, parce qu'eux, ils ont du temps à perdre. Et je m'excuse pas, voilà, je fais partie de cette couche. On a du temps à perdre à polémiquer, à faire ci, à s'intéresser au truc méta et tout. Ce temps-là, consacrons-le à faire un beau spectacle, sortir une belle affiche, une belle promesse, à faire des bonnes blagues et recentrons-nous. Encore une fois, le stand-up de Dave Chappelle, c'est pas le bien. Il peut faire polémique, il peut faire ce qu'il veut et tout. À la fin de la journée, je dois reconnaître qu'il est trop fort. Il est juste trop fort. C'est fabuleux. Je ne suis pas d'accord avec lui sur 100% de ce qu'il dit, mais vraiment loin de là. Mais ça n'empêche pas de passer un bon moment, de reconnaître le génie, parce que le mot est dit, c'est un génie. Il y a vraiment quelque chose de très fort, et je ne veux pas que ce soit un mot galvaudé, je dis, il est juste trop fort. Et il a proposé une expérience, et alors je ne sais pas si vous en avez reparlé de ça, parce que nous, on l'a pris très au sérieux, il a dit, voilà, on va faire un Fight Club. Les prochaines fois. Ah, il nous a dit, mais il avait l'air très sérieux, il fait, je vais revenir en France, et je ne veux plus l'annoncer. Je veux qu'en gros, on va se passer le mot entre nous, comme une société secrète, et je viendrai, on fera des petites venues comme ça, des petits gigs, et ce sera un Fight Club, ce sera un espace de liberté totale, où tout ce qu'on va dire, ça restera ici, ça sortira pas d'ici.
Oh, c'est drôle, j'ai eu la même idée, moi, il y a quelques temps. Mais je ne l'ai jamais fait.
Mais il ne l'a pas proposé, c'était vraiment que pour vous, tu vois, vraiment, vous deviez un spectacle différent du nôtre. Ouais, il ne l'a pas proposé, et après, il y a une cohérence. Parce que là, ce qu'on fait là, toi et moi, en racontant ce qu'il a raconté, on le trahit déjà un peu parce qu'en fait...
Tout à fait.
Pour lui, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Je peux vraiment... C'est pour ça qu'il s'est permis de dire des dingueries que je pense qu'on peut tous dire en off, hors scène.
Avec oui, c'est ça, c'est ça.
Des trucs qu'on sait qu'on ne le pense pas vraiment en premier degré. Mais c'est marrant de le dire parce que c'est un peu dégueulasse. Mais ça, lui, le fait sur scène devant témoin. Donc, quand il te parle de faire un Fight Club où on est enfermé, où on se dit ce qu'on veut vraiment dire, c'est ça qu'il veut dire par là parce qu'en vrai... Il y a de la drôlerie dans des trucs un peu bas, on le sait. Mais le plus important, c'est de pas le penser, quoi, de pas appliquer dans la vraie vie les conneries que tu racontes sur scène, c'est tout.
Mais oui, c'est ça. C'est un peu comme les groupes WhatsApp privés où tu as 3 ou 4 potes où tu balances des trucs.
Bah oui.
Jamais tu dirais ça en public parce que c'est drôle. C'est juste drôle. C'est inoffensif, mais c'est drôle.
Je pense que c'est ténor un peu de notre métier, là, les Dave Chappelle, les Ricky Gervais, ils reviennent à ce truc de, on va dire, des dingueries, parce que c'est drôle, et vous savez que c'est drôle. Vous le direz en privé. Mais comme apparemment on est en public et qu'on nous regarde, on ne va pas le dire. Mais nous, on va le dire, on s'en bat les couilles. Et je pense qu'ils reviennent un peu vers ça, donc des fois ils abusent. Comme nos potes abusent des fois, tu dis à ton pote, non, là c'est trop, là, calme-toi. Eux le font, mais avec un micro et 300 personnes devant eux.
Ouais.
Ça fait. Pour les groupes WhatsApp privés, pour les choses comme ça, je vais être très clair, on est une époque où Faites attention, faites vraiment attention. Non,
mais les screenshots qui peuvent sortir après.
Ah oui. Tout à fait. Les screenshots, des choses comme ça. Que vous dites, ne dites rien en privé que vous ne pourriez pas dire en public. Faites super attention. Et si vous êtes problématique en privé, ça passera en public à un moment que vous vouliez. Non, ça va arriver sur la scène publique, surtout si vous avez des velléités d'être connu ou quoi. Pareil, votre comportement envers les hommes, les femmes, s'il est problématique quand vous n'êtes pas connu, à ce stade de votre carrière, faites très attention, ça se saura quand vous êtes connu. Et tu sais, en plus, je sais que vous ne changerez pas de comportement, ça va juste aggraver votre affaire.
C'est ça.
Mentalement, réfléchissez à ce que c'est une relation entre hommes et femmes et conscientisez-le et dites-vous, est-ce que j'essaie d'être ambigu? Est-ce que je cherche quelque chose sur la relation? Ou est-ce que je suis clean et je... Mais vous pouvez être tendu, vous pouvez ne pas être clean et dire, moi, chaque personne, chaque homme ou chaque femme, c'est un partenaire potentiel que je vais essayer de séduire, que je vais essayer de convertir. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais ça se saura. Et si c'est jugé problématique, vous serez jugé à l'orée de ça. Le monde ne vous laissera plus passer sur ça. C'est clairement le message qui est en train d'être diffusé. Le monde, vous ne passerez plus à travers la maille du filet, les amis.
Je pense que, comme tu dis, soit il faut, ça nous obligera tous à être un peu plus vigilants sur ce qu'on est ou ce qu'on fait. En vrai, en soi, c'est une bonne chose à long terme d'être moins dans le je fais des dingueries, on verra après. Non, il faut que tu réfléchisses un peu à ce que tu fais, que tu conscientises tes actions. Par contre, il faut que si tu es un peu tordu, comme tu le dis, il faut que tu sois prêt à assumer. C'est l'autre versant. Tu peux être tordu et dire « Ok, les gars, vous m'avez attrapé, c'est vrai. Je dis la vérité, je l'ai fait depuis le début. » Moi, ce qui m'énerve des fois quand on attrape les gens, c'est le déni. Ça, c'est la mauvaise foi.
Ah oui.
Assume, vas-y, excuse-toi, dis que t'as fait de la merde. On est tous humains, on peut tous faire de la merde. Pose tes couilles, assume. Même si ça fait peur, même si tout, tu vois. Ça, c'est un autre niveau qu'on n'a pas encore vu beaucoup. De gens qu'on chope la main dans le sac et qui disent hey, vous avez raison, je suis désolé. À part lui, Siké, vraiment, dans le monde des stars, dans les stars et tout, j'ai vu peu de personnes qui reviennent faire un mea culpa sur une action de merde qu'on les a cramées. Ça, c'est l'étape d'après pour moi, quand même.
Je comprends. Et surtout, il va falloir dire un truc, c'est que moi, pour avoir vu des comédiens français faire des choses étranges, l'information m'est arrivée, c'est-à-dire s'il se passe un truc le lundi, elle m'arrive 4 fois de versions différentes dans la semaine. C'est-à-dire que ça se sait très vite. Ouais, et vous serez très vite catalogué et il y a une main invisible qui va s'abattre sur vous et vous ne le verrez pas. Il y aura moins d'opportunités, moins de choses qui se passent. Et donc, et à la base, je suis désolé, à la base, vous devriez être moins tordu, mais je ne sais pas, il y a l'éducation, il y a plein de choses qui font qu'on peut, dans la vie, on peut avoir des enclés à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Normalement, la société ne devrait pas vous permettre de faire. Vous les faites, je comprends. Il va falloir se redresser et surtout vous dire que ça va se savoir et que ça ne sera plus impuni. La parole se libère.
Et tant mieux.
Et voilà, tant mieux, et ça va être jugé à l'orée de ce que vous êtes, quoi. Et à l'orée des valeurs de 2024 qui ont changé. Clairement, les sensibilités ont changé, les choses. Et Dave Chappelle, je me demande comment il va s'en sortir avec ce spectacle, puisque une grande partie de son acte, et je le dis, c'était quand même, il a remplacé son obsession trans, bi et tout, sur les juifs. Il y a vraiment beaucoup de blagues, moi, où la punchline, c'était les juifs.
Pour moi, il a fait aussi un peu les Chinois. Il n'a pas fait que les Juifs.
Ah.
Personne.
Bah écoute, yes. Vous êtes là, on est là, on fait partie de la société. Il y a que Jal. Voilà, le seul.
Enfin, et c'est bien gavé sur vous quand même, Jal.
Ah oui, c'est ça, c'est ça.
Et après,
vas-y.
Quand on le veuille ou non, je pense à tort ou à raison. À tort ou à raison, il attaque ce que lui juge comme le pouvoir. Donc, s'il était sur le dos des transmas dans le temps, c'est parce qu'il jugeait que l'LGBT était le pouvoir aux États-Unis. Si maintenant il passe aux Juifs, c'est parce que il a jugé que
Non, mais il a jugé la guerre, il a jugé qu'il faut être l'Hollywood, il a jugé que à la fin de la journée, ça reste quand même malheureusement des clichés antisémites. Et tu peux me dire oui, non, mais si on prend 30% des studios sont contrôlés par
J'ai rien
déjà une conversation que je parle. Non, mais on peut l'avoir, cette conversation. Dans le monde du spectacle, en particulier aux États-Unis, il y a une vraie histoire dans le cinéma. Il n'y a pas de souci, même sur l'immigration juive. Il y a cette présence, elle est là, mais c'est pas. Je pense que les punchlines, ça ne peut pas être. C'est le problème juif, et lui, il s'en sert de punchline, et il rend ça mortellement drôle. Et c'est pas un souci, c'était drôle quand il le fait. Il n'y a pas de problème, c'est juste que cette mécanique est revenue plusieurs fois, et. Ah, c'était pas la plus élégante.
En ce qui me concerne, je ne suis pas assez dans le spectacle pour savoir qui contrôle quoi factuellement, en vrai.
Ouais, d'accord.
Si Dave me dit qu'il l'a croisé, qu'il a croisé des trucs, Dave, il sait de quoi il parle. Là, à un moment, toi ou moi, qu'on peut le croire ou pas, c'est factuel.
C'est-à-dire que j'entends, mais tu aurais dit c'est les Raéliens qui contrôlent le monde. Toi, tu te dis, c'est Dave et je lui donne la confiance. Et c'est ce truc-là qui pose problème. C'est-à-dire que si ce qu'il dit, c'est un cliché antisémite, nous, dans notre tête, ça a tendance à nous renforcer ce cliché antisémite.
Bon, là, je pense qu'on n'a pas encore une heure de débat sur ça, mais je voulais juste dire, en parlant des clichés pas forcément antisémites, en tant qu'humoriste, c'est intéressant à quel point on peut parler d'un truc que l'on vit ou qu'on trouve vrai, même si c'est un cliché. Tu vois, à quel point, parce que c'est trop facile de dire, c'est un cliché, on n'en parle pas. Ça permet de taire beaucoup de choses. Mais du coup, en tant que dans notre métier, à quel point on peut aborder un truc. Je vais donner un exemple de merde hein, qui n'est pas réel. J'ai en mode, moi, je trouve que ma copine, elle est relou, qu'elle a ses règles. Vraiment, le truc basique, le cliché de merde qu'on avait en troisième. Et j'ai un sketch à écrire au-dessus parce que c'est ma réalité.
Ouais.
Puis-je y aller ou pas? Et normalement, la réponse est non, tu n'y vas pas, c'est trop machin. Mais en vrai, à quel point un cliché qu'on vit, on ne peut pas l'aborder ou est-ce qu'on peut l'aborder?
Mais c'est ça, c'est le mélange entre le cliché et ce que tu vis dans ta vie. C'est comme l'histoire du patriarcat et du truc machin. Et que toi, dans ta vie, tu dis, là, par exemple, la différence de salaire entre les hommes et les femmes.
Oui.
Bah oui, quand j'ai deux enfants, quand j'ai mon deuxième enfant, ma femme a arrêté de travailler. Donc j'ai travaillé trois fois plus. Mmh. Et oui, je gagnais beaucoup plus d'argent que ma femme. Oui, parce que... voilà. Et donc, oui. Mais est-ce que c'est une domination? Je ne sais pas. Mais moi, qu'est-ce que je vis, moi? Donc, c'est un peu le croisement entre le cliché et ce que tu vis, toi. C'est comme dans l'histoire encore du Me Too stand-up. Oui, il y a beaucoup de trucs. Mais il y a peut-être des filles qui n'ont jamais... pour qui ça s'est bien passé ou à qui on n'a pas mis une main aux fesses, quoi.
Bien sûr.
Donc, c'est un peu croiser ton expérience avec ce qui se passe à l'extérieur.
Et nous, on doit faire deux choses. Déjà, dans le truc MeToo, c'est qu'on doit... Le message, c'est... Vous pouvez parler et on doit quand même dire qu'on tend vers quelque chose de plus safe. Quand quelqu'un t'a dit qu'il y a eu des problèmes, ton premier réflexe, ça ne doit pas être de dire... Est-ce que tu as vraiment eu des problèmes? Est-ce que c'était vraiment problématique? Non. Tu as eu des problèmes, on considère que tu as eu des problèmes et on va faire en sorte que les autres, les prochaines, n'aient plus de problèmes. Parce qu'on va t'écouter. Ça va être vraiment important de dire on t'écoute, quoi qu'on en pense, quoi qu'on juge du messager, de ci et ça. On ne va pas juger le messager, on ne va pas empêcher les gens de parler. On va leur donner une safe place pour parler et s'exprimer. Mais encore une fois, la suite, condamné, pas condamné, ce n'est pas moi, je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire. Je vais juste dire... On vous a entendu. Et si tu me dis à moi que l'ambiance en coulisses, c'est un truc de Saint Boys Club de relou, je dois me remettre en question et me dire « Ah oui, c'est vrai, on n'était que des hommes et qu'on est des relous parce qu'on a fait des blagues de Gaulmont pendant une demi-heure et qu'en tant que fille, tu n'as plus te sentir agressé. En tant que minorité, tu n'as plus te sentir agressé et tu nous trouves relou. » Et après, je peux très bien trancher, dire « Écoute, tu sais quoi? Moi, c'est mon club. Je veux qu'on soit qu'entre relous comme moi. Qu'entre mec à testostérone et viens plus. Mais c'est mon choix, c'est mon positionnement et je serai super clair dessus.
Ben oui.
Pareil pour le truc des filles, nous on a eu la conversation avec Manu Bibar, que tu fréquentes également. Il me dit putain, que des fois les mecs, quand ils écrivent un sketch sur les nanas ou sur un truc sur les nanas, ils gagneraient tellement à fréquenter plus de nanas et plus de diversité parce qu'ils auraient au moins un peu plus de nuances, de subtilités, il verrait l'autre côté, il pourrait faire plusieurs éclairages à un phénomène égal. Les règles, je sais qu'il y a des nanas aujourd'hui qui abordent les règles sous le prisme du syndrome prémenstruel, c'est-à-dire ce moment avant les règles où hormonalement ça ne va pas, mentalement ça se complique.
Bien sûr.
Et donc ce sujet va être abordé par des nanas d'une façon très intéressante et je comprends tout à fait qu'il puisse être abordé aussi par des mecs en disant « Écoutez-moi, je subis un truc ». Et je subis un truc parce qu'elle subit un truc et moi aussi j'en subis une forme et ça peut être super universel. Maintenant, ça va demander de la finesse, de l'analyse.
C'est ça. Ou même et se mettre à sa place. Hein. Tu peux dire, attends, si moi je saignais tous les mois, moi je te plante en couteau si tu me dis bonjour. En fait, on peut comprendre le truc. Après, j'ai pas de sketch dessus. Hein. Vraiment, c'était un exemple à la con pour montrer vraiment un truc assez bas, un cliché assez bas qu'on peut tous connaître.
Oui,
et dire, même sur ça, moi je pense que tu peux écrire dessus. En fait, même
si on est. Je pense que c'est aussi si tu parles de toi et de ce que tu vis toi. De ta copine, ce que toi tu traverses et comment ça t'affecte toi, ça tu peux et tu dois en parler si tu en as envie. Après, venir faire des généralités sur les femmes, là t'as l'air con parce que qu'est-ce que t'en sais?
Ou t'as l'air drôle. problème, c'est la drôlerie. Le problème, c'est qu'un mec comme Chappelle, il rend tout drôle. Il rend tout drôle, et quand il rend une idée qu'on peut juger problématique drôle, c'est, tu peux te dire, oh, c'est dangereux.
Non, mais c'est ce que je dis à des gens, c'est que des blagues, on sait écrire. Écrire des blagues, c'est facile. C'est savoir ce que tu veux dire. C'est là qu'il y a la difficulté, parce que techniquement, quand tu connais les ressorts, les mécanismes, etc., quand tu as acheté le guide ultime du stand-up de Briard, tu sais faire. Mais pourquoi tu vas faire la blague A et pas la blague B? Et tout choix ou absence de choix va révéler qui tu es. Donc, c'est un peu ça, le truc. C'est qu'est-ce que tu choisis? Comment tu vas éditer? Tu as 10 minutes de toute ton existence. Tu vas parler 10 minutes de quoi? C'est ça, le truc.
Et c'est ça qui est presque dommage. C'est toujours le truc qu'on aura, c'est-à-dire, ah là là, j'ai le mec le plus doux au monde, j'ai l'échappé le plus doux au monde, pourquoi il va s'acharner sur X, Y, Z? Et c'est ça qui est chouette avec ce spectacle et cette venue spéciale. Alors, pour te dire, sur le ticket, il était marqué, le spectacle, ça s'appelait The Process, le processus, un travail intime sur un show en devenir, en gros. Et la promesse était là, on voyait qu'on avait un show en devenir, on avait un mec qui travaillait, il a créé un écrin pour se permettre toutes les incartades, tout ce qu'il voulait, et dans cet écrin-là, va, dis ce que tu veux, il n'y a pas de souci, tu m'as prévenu. Je suis d'un petit coffre-fort, fais ce que tu veux. Et je lui fais assez confiance pour que le spécial Netflix, tout soit calibré, tout soit cool et tout soit justifié.
Un truc qu'il fera, en fait, je ne sais pas ce qu'il gardera de ce qu'on a vu dans le spécial Netflix, mais en tout cas, ce qu'il gardera, ce sera vraiment un choix très, 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 très réfléchi. Parce que souvent, quand les gens voient leur spécial en mode « Allez, il a dit des dingueries sur les trans, c'est abusé qu'il dit ça », mais moi, je suis sûr que Dave, il avait 4 heures de space. Il avait 4 heures de special, il en a gardé une heure, et tous les mots qui ont été gardés, c'est vraiment ce qu'il veut que tu entendes, en fait. Donc, c'est vraiment un choix, soit parce qu'il a un message à passer, soit juste pour faire un pied de nez en mode « c'est juste drôle ».
Et que t'aimes pas. Ton avocat a bien ficelé avant, etc., machin. C'est pas, il joue pas, ça. Mais c'est ça qui est beau.
Ces mecs-là, pour moi, du coup, à leur niveau, à leur créativité et tout, et leur quantité de contenu, quand ils décident de nous passer un truc, il faut se demander pourquoi. Au-delà de pourquoi il a choisi de garder que ça. Donc, vous trouvez que c'est trop bas, que c'est des vannes faciles et tout? Non, il avait le choix, des vannes plus compliquées, il a fait ce choix-là. Et il y a une raison derrière.
Et il y a un truc qui est très drôle, c'est les détracteurs de Dave. Et ça vaudra pour n'importe qui, n'importe quel humoriste se fera attaquer sur ses idées. C'est qu'ils essayent toujours de dire, ces deux derniers spéciaux, il est plus si drôle. Ces trois derniers spéciaux, il est plus si drôle. Les gars, moi, je suis tellement pas d'accord avec vous. Je trouve de plus en plus drôle. Je trouve trop fort. Ce closer, c'était magistral. Mais vraiment, tu vois que quand tu es humoriste, on t'attaque. Quand on veut t'éclater sur les idées, on t'attaque pas sur les idées, on t'attaque sur la forme. C'est-à-dire, on dit non, mais en fait, en plus, il est pas si drôle que ça. Il a un peu perdu de sa verve. C'est plus le Dave Chappelle des débuts et tout. Ouais, mais Dave Chappelle des débuts, quand il était skinny, tu l'as jamais regardé en vrai. Et le spectacle est dispo, mais tu veux pas le regarder. Toi, tu as voulu voir le Dave Chappelle du retour de Netflix et tu as accepté The Bird Revelation, les choses comme Stick and Stone. Et là, tu es en train de refuser. C'est un refus de jeu.
On est après, c'est un peu comment être un rageur, mais tu veux pas avoir l'air d'être un rageur. Parce que ça me fait penser à un écrivain portugais qui écrit, il écrit comme il voulait. Les ponctuations, les tirés à la ligne, paragraphe, ils s'en battaient les couilles. Ils écrivaient tout d'affilée. Et justement, les critiques littéraires, ouais, il sait pas écrire, machin, juste parce qu'il faisait sa propre grammaire. Après, le mec, il avait pris Nobel de la littérature. Et là, il est le seul portugais à l'avoir eu. Et là, tu es là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça, c'est, tu veux attaquer, mais avec quoi? Qu'est-ce que tu peux bien dire? Tu peux pas.
Dans la rhétorique, tu as le pathos, l'éthos et le logos. Donc, il y en a un, ça permet de toucher la dimension affective de l'auditoire. L'autre, c'est la dimension morale de l'auditoire. Et dernier, c'est la dimension rationnelle de l'auditoire. Et chez Dave Chappelle, ils n'arrivent pas vraiment à attaquer le logos, la dimension rationnelle de l'auditoire. Donc, souvent, on va aller sur l'affectif, sur la morale. Mais s'ils ne peuvent pas t'avoir d'un côté, on essaie généralement de baisser le reste en disant ça fera tirer l'ensemble vers le bas, quoi. Et vraiment, moi, ces derniers temps, les attaques, c'est sur « Ah, il est plus si drôle, il est plus si pertinent », alors que, force est de constater, il est drôle, il est pertinent.
En fait, ce qui est bien, c'est qu'il le fait tellement bien que quand tu vois son special, tu vois un mec qui parle. si t'es innocent, tu dois avoir un mec qui parle. Mais moi aussi, je peux faire du stand-up, merde. C'est juste un mec, il parle juste.
Mais en vrai, Scott, en vrai,
pour moi, il parle. Hein. En fait, je te promets qu'il met 2-3 gimmicks pour se rattraper parce que du coup, il a cette capacité à. Il installe des trucs qui fait qu'il peut l'utiliser à tout moment quand il veut. Mais la moitié du spectacle, c'était juste posez-moi des questions, je réponds. Il a fait peut-être 30 minutes vraiment écrit. Et le reste, c'était.
Bah oui. Mais quand tu arrives au special et que tu peux le comparer à Shakespeare dans son écriture et tu vois, tu dis ah ouais, ah non, mais c'est un génie. Ok. Mais c'est un génie. On dirait que c'est tellement facile et que c'est tellement bien comme sûr. Ça, mais il a fait des shows de 4 heures pendant 6 mois, 4 heures, boum, 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 dans plein de pays, etc. Et après, il a réduit, comme tu disais tout à l'heure, à 1 heure. Et là, voilà le jus. C'est ça. Et maintenant, OK. Et toi, tu vois ça de loin. C'est comme Richard Pryor. Tu vois un spectacle de Richard Pryor des années 80. Tu dis, waouh, quel act out, machin et tout. Mais le mec, il se chie dessus à chaque spectacle. Il enregistre après 9 mois de tournée. Et les Américains, c'est pas, ça rigole pas. C'est 28 dates par mois. Et donc, il fait ça, le même spectacle pendant 9 mois, tous les jours, bam, 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 bam. À la fin, il enregistre. Et là, tu es là, ah ouais, non, mais il est fort.
C'est ce qui est en préambule du guide. Le chip, c'est de dire, c'est simple, mais pas facile. Il enregistre simple. Mais ils enlèvent le processus. Ne croyez pas que ce soit facile, mais il a rendu ça simple pour toi, pour le consommer. Tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, et c'est normal, c'est tout notre travail. Et c'est pour ça que des fois, il y a ce truc, il y a des gens qui viennent te voir après Comedy Cup, et comment je fais pour faire comme vous, pour monter sur scène et tout. Bah, il serait toi un open mic et tout, parce qu'ils se sont dit, c'était drôle, c'était bien, mais je pense que je peux le faire. Alors qu'il va se passer des années entre ce qu'il pense pouvoir faire et ce qu'il voudrait faire.
C'est ça. Et ça, c'est drôle, mais c'est aussi frustrant parce que... mais ça, c'est rigolo quand tu les vois, quand tu vois des gens faire les premières scènes. Ils sont là, ils font le kéké avant et parce qu'ils sont drôles dans la vie. Et quand il faut aller sur scène, sois drôle maintenant. Voilà, tu commences à être drôle maintenant.
C'est la réalité. C'est
comme c'est très dur.
C'est comme acteur de film pour adultes. Ouais, tu peux être très bon amant, mais quand il y aura 20 personnes et un caméraman qui dit « on y va », c'est pas le même job. C'est pas le même job.
Ah oui, c'est sûr.
Et pour terminer, pour revenir à un truc un peu technique de Dave, il a utilisé une technique que c'est la première fois que je vois, mais qui était trop, trop bien, qui était super élégante. Il a fait une blague. Il a fait une blague avec une voix spéciale. C'est une voix de noix qui parle un peu comme ça. Et il a altéré sa voix comme ça. Il fait une blague comme ça. Et il dit, mais ça, c'est une voix que j'ai faite dans mon dernier special. C'est la voix que je faisais à cette blague-là. Donc, il refait la blague et c'était une blague sur le Titanic. Un mec c'était sur le sous-marin qui était allé rejoindre les gens du Titanic, je crois. Et donc, il fait une blague sur ça. Donc, il refait la blague. Puis, il dit, mais attendez, cette voix, en fait, elle ne vient pas de là. Elle vient d'une blague que je faisais les années 80 qui était une blague sur Aquaman. Il refait la blague sur Aquaman. Puis, il dit, non, mais en vrai, si je vais vraiment au bout du truc, ça ne vient pas de là. Ça vient d'une vieille blague, une blague à Toto. Et il refait la blague à Toto.
Bah ouais.
Que tout le monde connaît, c'est une nana qui vient d'une banque du sperme et qui... Voilà. Vraiment, la blague de bourrin, mais ces trucs en quatre temps où il refait l'historique de la blague, je suis quasiment sûr que c'est une mécanique qu'il va garder dans le special parce que c'est super élégant.
C'est superbe.
Ça marche, hein.
Et maintenant, que tu as dit, je pense que j'ai entendu quelqu'un faire un truc dans le genre où je me suis dit, ça y est, copie comique, mais je sais pas.
Bah, okay. Bon, en fait... Après, si c'est une mécanique, les mécaniques, on peut les reprendre.
Ah oui, bien sûr.
Mais lui, là où c'est fort, j'aimerais juste préciser ça, c'est que si tu as vu tous ces specials, tu reconnais toutes les blagues. En fait, il ne te ment pas. C'est pas gratuit. Et quand il te dit, ah non, mais cette blague-là, je l'ai fait dans le Titanic, machin, on l'a vu, ou dans le special. À chaque fois qu'il descend d'un cran, les gens qui l'ont suivi, c'est une blague en plus pour les gens. En fait, c'est drôle si tu ne le connais pas. C'est encore plus drôle si tu le connais. Et la blague finale de Toto, tu l'as connue quand tu étais en troisième, quoi. C'est une blague de merde qu'on connaît tous. Donc en fait, il a fait une sorte de callback inversé avec son historique à lui et une blague commune à tout le monde. Bah franchement.
Mais c'est contre-intuitif parce que quand tu dis une blague qu'on connaît, elle fait pas rire. Et là, ça fait la différence. C'est comme une bonne chanson. Elle fait, vous souvenez mon ancien tube dans les années 80. Tu entends l'ancien tube et tu t'ambiances sur l'ancien tube et c'était la même chose. Et c'est super contre-intuitif pour moi. Je me dirais, absolument, tu mettras à l'écrit. J'ai dit, mais non, mais ça va. On la connaît, ça peut pas marcher. Il y a plus la surprise. Eh ben non, tu as la récompense quand même, tu t'éclates à la réentendre.
Ouais, ça c'est intéressant ça. Ouais.
J'ai un dernier truc avant de vous libérer, c'est vrai que là on a fait presque 2 heures, bonne chance pour le montage.
Il y a zéro montage pour le coup.
Ils vont se régaler les gens alors derrière.
Mais non, mais parce qu'on connaît notre public, on connaît. Okay.
Et... ils râlent mais ils écoutent, ils sont là, fait chier, vous mettez 10 minutes avant de parler de stand-up, mais ils écoutent.
Mais c'est un choix. Que, alors, pour le coup, c'est un choix qu'on fait dans le projet. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas... Il n'y a pas de chichi, on ne veut pas que la technique ce soit un frein au fait de sortir un podcast. Donc,
okay.
Si vous aimez Stand Up France, chaque semaine, normalement, vous avez votre épisode. Vous nous pardonnez quand il y a des petites erreurs techniques et tout, parce que ce n'est pas le fond du truc. Et je pense que si demain, vous sortez votre propre podcast, vous pouvez avoir des exigences très hautes. Dire, moi, je veux que le son soit parfait, je veux que le montage tourne. Mais pour connaître des gens, il y a des chances que votre podcast ne sorte jamais en vrai.
Mmh.
Nous, on mise sur le fait qu'on vous n'êtes pas 10 millions à écouter, vous êtes quelques milliers à écouter, vous êtes nos potes, vous êtes des gens intéressés par le stand-up et vous nous pardonnez quand il fait 2 heures et vous faites 2 séances de sport, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est très bien. Du coup, ma question pour vous, c'est bon, moi j'ai une amie qui était là au second show de Dave Chappelle, pote humoriste, et à la fin, elle est partie avec Dave Chappelle et ils sont allés dans un bar après.
Ouais.
Avec pas que Dave, hein, avec Dave le DJ, les premières parties, en fait, elle a pu suivre les stars et partir avec eux après.
Ouais.
Est-ce que vous auriez fait ça vous, du coup? Moi oui, moi déjà je réponds immédiatement. Moi j'avais déjà quitté les lieux. Si j'étais encore sur place, j'aurais squatté pour traîner avec eux en fait. Vous à votre, est-ce que vous justement si vous avez l'opportunité d'aller traîner dans un bar avec Dave Chappelle après le spectacle, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous dites non, je veux pas être ce genre de fan ou je sais pas quoi. C'est quoi votre position?
Question. Moi ça dépend de Dave Chappelle, je ne sais pas, mais je me suis retrouvé avec Eddie Izzard. On m'avait fait la surprise d'aller le voir à la nouvelle scène pour mon anniversaire. Je me suis retrouvé en haut dans la rue et je vois, parce qu'il a une coiffure un peu jaune, tu ne peux pas te tromper, tu sais que c'est Eddie Izzard. Et je me suis, malgré moi, retrouvé à gueuler d'en haut du truc, du quai, dire « Hey, Eddie, coucou, je viens te voir !» Et genre, okay, après, pourquoi?
Donc, je pense que... Malgré toi, t'es sûr? T'as pas oublié.
Pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire coucou à Eddie Izzard et de le rassurer que je venais le voir? Et le délire. Donc, je pense que ça dépend de la relation que tu as avec l'artiste en particulier. Dave Chappelle, je pense... Mon perso, je pense pas. Mais Billy Connolly, oui. S'il est en EHPAD, je vais aller le voir en EHPAD. Et je le suis. Et je suis là juste à... voilà, donc je sais pas. Donc, moi, c'est. Non.
Ça dépend de l'introduction. Ouais. Eddie Izzard, tu vois, j'ai mangé avec lui, avec. Quoi, lui, elle. Non, mais parce que l'introduction était claire. On était dans le cadre d'un café-théâtre qui le recevait. Nous, on était des résidents de café-théâtre. Donc, le soir, il y avait cette transmission. Il y avait Yacine Bellousse et tout, qui est jamais avare de transmission de savoir et de contact. Donc, ils se sont retrouvés à manger avec le frère d'Eddie. Donc, c'était dans ce cadre-là, ça me va très bien. C'est ainsi que il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés dans le cadre d'une mise en relation de ce type.
Ok,
moi. On te dit.
Oui, t'es vraiment dedans, quoi.
La semaine dernière, pour vous dire un truc un peu rigolo, on se retrouvait à faire une première partie et il y avait toute la famille d'un rappeur très connu qui était là et il y avait l'opportunité qu'on aille manger avec la famille du rappeur et tout. Donc, cette mise en relation, elle se fait naturellement.
Elle est naturelle.
Elle est fluide. Il est venu te voir en spectacle, la famille veut te voir, vous mangez ensemble, okay. C'est bon.
Ok.
Et si demain, c'est mon... Je te dis pourquoi, il y a Jerry Seinfeld à Paris, il y a Gad Elmaleh qui me dit, viens Briac, on va voir Jerry Seinfeld, et c'est mon pote, et je te présente, et vous êtes pas... Là, il n'y a pas de souci, tu m'as... Mais moi, de moi-même, en connaissant mon caractère, suivre quelqu'un d'un bar ou quoi, je saurais pas quoi faire, je saurais pas comment me comporter, c'est pas mon truc, mais je pense qu'il y a des gens qui ont ce talent naturel que ça dérange pas, qui arrivent à sociabiliser super vite. Profiter, ça peut être une bête de soirée, ça peut être trop bien, mais moi de moi-même je vois pas le contexte que tu décris, je le fais pas.
Ok. Bah moi clairement j'étais déjà dans mon Uber, je rentrais chez moi quand j'ai eu l'info, sinon clairement je pourrais
squatter. Dis-moi la tonalité de l'info, comment ça...
La tonalité de l'info, c'est on est plusieurs potes, on est venus à plusieurs, on n'était pas au même endroit. À la sortie, donc j'écris à mes potes, vous êtes où? Là, moi, je me barre et tout. Moi, je suis déjà parti. Il dit, elle est où notre pote? Bah, elle est avec Dave Chappelle, elle est partie avec le groupe. Je dis, comment ça, elle est partie avec le groupe? Bah, elle est partie avec eux et tout, pour papoter, quoi, et tout. Je dis, mais s'ils sont déjà partis, là? Ouais, ils sont partis. Oh, putain,
merde. Est-ce que Maouli est bienvenu dans cette conversation? Est-ce que Maouli...
Bonjour.
Si tu veux. Il s'était dans un bar. Moi, je peux apparaître dans le bar et prendre un mojito et me poser à côté. En fait, je peux me glisser tout doucement. Encore pire.
Ouais.
avec grands yeux comme ça. Ça en se faisant des selfies en scratch, genre, comme ça.
En fait, j'ai pas de scénario, j'ai pu rien faire. Mais je pense que si j'avais eu l'info en avant, j'aurais essayé de trouver un moyen de faire quelque chose, en fait. Ouais. Parce que c'est pas tous les jours que
tu peux. Ouais, à tel endroit, et tu as invité et tout, pourquoi pas, tu vois. Et à tel endroit, il y a Dave, ça va. Mais putain, ce scénario, il me semble compliqué quand même. Il me semble pas naturel pour moi, mais... Et je te dis, moi, j'ai rencontré des mecs super connus dans des bars. Et ça m'a fait plaisir et je suis allé les aborder alors que c'est pas mon caractère parce que j'avais juste trop envie de leur parler que je me suis dit c'est fou, tu es à l'autre bout du monde, tu rencontres la personne que tu veux vraiment rencontrer, fais l'effort. Ouais. Et j'ai jamais été déçu de faire l'effort. Et ça, c'est une leçon aussi que je voudrais passer à tout le monde. Dans ma vie de stand-upper, je n'ai jamais été déçu de faire le premier pas ou de faire l'effort de sociabiliser et de connecter à quelqu'un. Et ça m'a demandé vraiment de prendre des ressources en moi, mais à chaque fois, j'en ai tiré quelque chose... de positif et c'est une leçon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pourrais faire un pas vers quelqu'un, il faut que je le fasse parce que c'est, j'en tire toujours quelque chose de cool quoi.
Ouais.
Ok, bon voilà, c'était ma question finale pour savoir comment vous réagirez dans cette situation-là. Pour moi, la prochaine fois qu'il revient, si j'ai l'occasion d'aller boire un verre avec lui, j'hésiterai pas. Mon anglais, il est pas non plus incroyable, mais je me démerderai juste pour dire hey,
j'ai bien avec la bouteille, il parle polonais, Dave Chappelle.
Ouais, puis tu es là pour écouter, tu es pas là pour parler, tu es là pour écouter.
Exactement.
Écouter la vibe, te dire est-ce que ça confirme bien ce que je sentais, est-ce qu'il est pareil d'un extérieur que sur scène, et ça peut être génial. Hein. S'il revient, vrai, tu vas le voir.
S'il revient, ça dépend combien de temps. S'il revient dans 6 mois, je lui dirais il a pas assez, ça n'a pas bougé.
Moi, je retourne. Il revient demain, je retourne. Je regrettais de ne pas avoir fait les 2 shows.
Tu sais, pour être transparent avec toi, j'ai un pote avec qui je voulais, je veux le dire vraiment, c'est Reda. Je voulais aller avec Reda, en fait. S'il revient, que Reda est dispo, j'y retourne immédiatement. Parce que le débrief qu'on aura après le show en tête-à-tête pendant 2 heures sera très, très qualitatif pour moi, en fait. Donc, c'est important, je pense, de le voir en collectivité et aussi de le voir pour en discuter.
Ah ouais, j'ai autant aimé le voir que débriefer avec mes potes après. C'était un vrai plaisir de débriefer. On s'est retrouvé avec Hugo Levent dedans. Il y avait Obenala. Il y avait pas mal de gens du stand-up français. On a pu parler. C'était chouette de se dire qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a vu. Il y avait Yassir. Et de se dire on a vécu un beau moment. Et là, le prochain qui vient, comme ça, vous êtes prévenus, vous pouvez prendre vos places. Je crois que c'est le 25 mai, il vient Eric André au Café de la Danse. Il vient enregistrer son émission, le Eric André Show.
Ok.
Moi, je suis vraiment grand, grand fan d'Eric André.
T'es un grand fan d'Eric André ?
Fan absolu d'Eric André, fan absolu du Eric André Show. J'adore son spécial sur Netflix, je vous recommande de le voir. C'est un de mes specials préférés, il m'a tué. Donc ça va être un événement, le Café d'Adam, c'est très beau, mais c'est énorme. Je ne sais pas pourquoi ils font ça là-bas, je ne sais pas qui s'intéresse Eric André en France. J'hésite à y aller parce que ça m'oblige à faire l'aller-retour Paris à un moment où je suis déjà en tournée sur des choses, mais je pense que je vais forcer. Le prix n'est pas prohibitif, ça doit être 50 balles.
Ouais, ça va.
Puis quand tu as payé des chapelles 150 balles.
Pour les 50 balles, ça va.
Pour le voir bourré, donc à un moment, tu peux le voir avec André.
C'est ça.
Donc je suis chaud pour voir Eric André, je ne sais pas si je vais motiver des gens, mais voilà, les prochaines venues c'est ça. Si vous ne voulez pas louper d'Américains qui viennent, abonnez-vous au compte de l'FD Shop.
Ouais.
Je pense qu'ils vont encore faire un... En fait, tout va dépendre de la rentabilité aussi des événements. Dave Chappelle, on ne va pas se mentir, énormément de personnel en salle, beaucoup plus qu'un théâtre classique, ça demande beaucoup de monde, de logistique. Ça demande, le système coûte une fortune pour mettre les téléphones dans les petits sachets. Là, ça coûte vraiment plus cher que ce que vous pensez.
Ben oui.
Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont poursuivre? Je l'espère. Est-ce qu'il va faire son Fight Club? Franchement, j'aimerais trop. Et je vous. Ouais, même si je n'ai pas le droit de parler Fight Club, je vous en parlerai à vous.
C'est ça. Juste toute discrétion ici dans le podcast.
Et dans tous les cas, je vais vous dire un truc. Voir du stand-up live, voir du stand-up à ce niveau live, moi, j'en sors grandi, quoi qu'il arrive. Je regarde pas un centime et ça fait vraiment partie de notre culture. Et celui qui me dit j'ai déjà vu Dave Chappelle ou j'ai déjà vu des Américains, quand ils sont en France, c'est pas joyeux. Non, mais quand ils sont en France, c'est pas joyeux, j'irai plus le voir. Je lui donne tout à fait raison. Je lui dis ok, tu as essayé, c'est pas ton truc. Moi, j'ai essayé, pour le coup, c'était mon truc. J'y retournerai avec plaisir, mais tester une fois de voir ce que ça fait.
Ouais. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai kiffé. Hein. Je veux dire, j'ai vu Louis C.K., j'ai vu Dave Chappelle plusieurs fois, j'ai vu Chris Rock. Je n'ai jamais regretté ça. Ben, en fait, à un moment, si c'est notre métier, après, si tu comprends anglais, il n'y a pas de débat. Je te laisse tranquille, tu comprends anglais. Mais c'est notre métier, tu peux me dire 50 euros, c'est trop. Frère, c'est 2-3 chapeaux. Je ne sais pas où tu joues, mais au pire, c'est 2-3 chapeaux. Tu vas le faire dans la semaine. Donc, va voir ce type-là qui va te filer une claque dans ton métier.
Il y a des gens, ils ne regardent pas. Ils n'ont pas de culture. Il y a des gens, ils n'ont pas de culture stand-up. Ils veulent faire du stand-up. Ils me disent, je ne vois jamais spectacle, j'en ai jamais vu. Et je le comprends, il n'y a pas de souci. Tu peux te forger une identité sans avoir vu de spectacle. Mais ça me semble bizarre. C'est comme quand tu joues au foot et que tu ne fais pas d'analyse de jeu. L'analyse de jeu d'un joueur, pour un joueur professionnel, il y a à minima un entraîneur qui analyse le jeu, qui va te donner des consignes, te dire, eux, ils jouent de telle façon, vous devez nous placer de telle façon. Moi, je trouve ça très suspect quand tu n'as pas culture stand-up. Sachant que mon plaisir en tant que stand-upper, c'est vraiment, je peux être à l'autre bout du monde ou alors il peut y avoir une salle remplie d'inconnus s'il y a un autre stand-upper. La première chose dont on va parler, c'est hey, tu as vu le dernier show de truc, il est en train de rôder et tout. On ne parle que de stand-up et on a besoin d'une base commune. Moi, j'ai besoin que tu me dises Briac, ta blague, ça fait penser à la blague de Chris Rock qu'il a fait dans tel spectacle et tu devrais l'améliorer comme ça en étant plus énervé en faisant. Parce qu'on a cette culture commune et c'est un plaisir de partager ça avec des gens.
Mais toi, si vous avez pas ça, vous truc. T'es un vrai geek aussi, Briac. T'es geek dans plein de domaines. Et en fait, mais c'est une nature. Moi, c'est une nature, tu vois. C'est...
Mais les gens forts, tu crois qu'ils sont pas geeks? Je crois que les mecs,
non, mais
que
ils sont obsédés. Ils sont obsédés.
Ils sont geeks. Ils connaissent tous les specials. Ils connaissent les travers des specials, les dessous. Ils ont lu les livres. Quand ils ont eu accès, parce qu'ils se sont payés. La liberté, ça te paye ça. La liberté, c'est que tu peux rencontrer Jerry Seinfeld et lui demander pourquoi tu as fait ça à tel moment. Ça demande quoi la logistique de faire ça? Pourquoi tu racontes ça et pourquoi tu le fais? Et ils ont rencontré leur idole, ils ont rencontré les meilleurs, ils leur ont posé les vraies questions. Donc, ils ont la connaissance qui est accessible à tout le monde, puis la connaissance qu'eux seuls peuvent avoir. Mais et cette combinaison d'Allah, ça en fait leur patrimoine culturel et leur patrimoine artistique.
Et tu es aussi pour profiter différemment des spectacles. Quand, là, pareil, Eddie Izzard, c'est une claque de act out. C'est act out, ok. Blacked out, ok, ok. Liberté, liberté, ok. Et tu y vas. Tu profites, tu rigoles à des moments, mais il y a des moments où tu vois la technique, tu vois sur quoi cette personne est très forte. Et tu te dis, ok, pourquoi je ne m'autorise pas? Pourquoi je ne vais pas plus loin? Pourquoi si? Et donc, c'est très cool. Tu profites du spectacle à plusieurs niveaux. Et ça, c'est très intéressant.
Voilà, en tout cas, merci les amis. On a fait un long podcast. Merci Maoulet d'être venu. Alors,
merci pour l'invitation.
On n'a pas parlé, pour le coup, tu fais partie des invités, donc on n'a pas parlé de toi cette fois-ci. Tu vas revenir, on va parler d'autres choses. On va plus parler de toi et tout. Là, c'était, tu es venu en tant que reporter spécial de la deuxième phase de Chapelle. Avec mais Maoulet, vous le retrouvez souvent à Paris, vous le retrouvez sur les plateaux. Le Café Oscar, si vous voulez jouer au Café Oscar, c'est Maoulet qui gère toutes les horaires du Café Oscar.
Il ment.
Il faut le harceler.
Il ment fort.
Quand ils vous disent 50 euros, c'est rien. C'est parce qu'au Café Oscar, les chapeaux, c'est minimum 50 euros que vous tombez dans la poche. Non, non, plus sérieusement. Il a effectivement tient un plateau au Café Oscar. C'est l'occasion de vous parler. On te voit en plein de plateau, mais on te, voilà, le Golden chez Sifax, c'est un endroit. Tiens, ça me permet de parler. On conclut sur deux choses. Café Oscar. Super endroit pour jouer vers Montmartre, c'est génial. C'est un très bel écrin. C'est il y a que 4 artistes par session. Il y a des règles précises, il y a une parité qui est respectée. C'est la volonté du Café Oscar et ça, c'est génial. Ça donne le temps à tout le monde, c'est assumé et ça a choqué les gens au début, mais c'est en train de rentrer dans les mœurs et c'est très bien. Totalement. Donc, c'est un endroit chouette auquel il faut jouer. N'harcelez pas les organisateurs, s'il vous plaît. Ils ont déjà fort à faire et accepter le refus. Et comme d'habitude, allez les voir, c'est toujours plus simple. Faites les bonnes démarches. Mais Café Oscar, big up à eux. Et deuxième endroit, le Golden, j'en ai déjà parlé. Le Golden lance des open mic.
C'est vrai.
À main levée, c'est le premier qui vont faire ça. C'est-à-dire, vous présentez le jour J, vous êtes 30, on lève la main, il y en a 8 qui sont pris et ils jouent. Et les 22 autres qui ne sont pas pris, ah, frustration ultime, non. Revenez à l'open mic d'après, revenez à celui d'après. Et croyez-moi, je l'ai déjà vu ce système. Ceux qui attendaient cet hiver dans le froid au Golden, je peux vous dire que maintenant, ils sont sur scène, dans le show, ils gèrent des plateaux au Golden. Ils ont eu des responsabilités parce qu'ils ont prouvé leur valeur. Et il y a eu quelque chose de très empirique. Et vraiment, j'en ai parlé déjà au podcast, j'ai vu des mecs attendre, demander des séances vraiment en galérien avec leurs valises et tout. Maintenant, ces mecs-là, ce sont des réguliers. Ils ont gagné leur place, ils ont prouvé leur valeur. Et ils ont un peu mangé des cailloux, comme nous tous on mange des cailloux, mais ça valait le coup. Et je pense que le open mic, ça va être la même chose au Golden. Ça sera le seul endroit à Paris où vous pouvez venir et avoir une chance de jouer sans être connu.
Mais Zali, c'est tout ce que tu viens de dire. et ce soit tous les jours en plus. Hein. Je crois que c'est du lundi au dimanche. Ou, bref, c'est droite des choses tous les jours. Aujourd'hui, ça marche pas. Demain, tu reviens. Il y a moins que ça le fasse. Quoi.
Bon, ça va être incroyable. Non, mais ça va changer le game. Il va changer le game avec ce truc-là. C'est une super initiative. Sachant que c'est chiant à gérer, mais ça va être trop bien.
C'est bien. Mais moi, j'aimerais à la fin laisser un petit teaser pour récompenser les jeux. C'est peut-être mon dernier podcast aujourd'hui avec vous.
Ah, mais non. Dis-nous tout, Scott.
Non, je ne peux pas. Non, je vais le dire. Je vais le dire. Si je suis là au prochain, je vais tout expliquer. Si je ne suis pas là, Briac l'expliquera.
Ok.
C'est un teaser.
Alors, c'est drôle, c'est parce que des deux qui se feraient expulser de France, je visais plus sur Maoulet, mais c'est toi qui
te fais expulser. Tu vois. Non, mais ici, des gens sont habitués à mes histoires un peu rocambolesques. C'est et j'en ai une qui va être expliquée au prochain podcast.
Donc, ça roule.
Accrochez-vous.
C'est du teaser, ça. Même nous, on est teasé.
Oui, c'est ça.
Je vais devoir revenir, Briac. Là, je ne sais pas ce qui se passe.
Il n'y a pas de souci, tu reviendras. Mais tu reviendras pour parler de toi. On reviendra pour parler parce que, en tant qu'humoriste, tu traverses des choses, tu traverses des étapes. Tu traverses des questionnements, que ce soit sur le spectacle, sur ce que tu dois faire, sur les vidéos, ce que tu dois faire dans tes sketchs. Et
totalement.
On a eu un petit aperçu là, de ta réflexion sur un sketch en particulier. Ouais, cette réflexion, on va la voir sur tout ce que tu traverses parce que c'est universel, on le traverse tous à différents niveaux. Donc, c'est l'humoriste que je vais inviter la prochaine fois, Maoulé que vous retrouvez sur réseau, @Maoulé sur Instagram, Scott Finn sur Instagram, Briac. Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, à
bisous.
Ciao.